Dans le tempo, c'est l'épisode 60. Tant d'épisodes. Cette fois, on reçoit Monomythe. Il fait de la musique, il est trop fort. Tous, bienvenue en ELT, le podcast des passionnés de musique.
On est bonne
tous
année.
Les 15 jours, bonne année 2024. Premier épisode effectivement qu'on enregistre depuis le passage à la nouvelle année.
Eh oui.
Mais un a été diffusé hier, donc c'était déjà la nouvelle année. Mais ouais, bon, on dit officiellement bonne année aux gens.
On aurait pu faire des
rétrospectives.
Des crari. Non, mais on aurait pu faire un crari sur l'épisode de l'année dernière qu'on avait enregistré en plein mois de décembre.
Oui.
En faisant comme si on était déjà en janvier, si on avait.
Ça, c'est rigolo, c'est vrai. On aurait dû faire ça. Mais
comme les gars à la télé, là, tu sais, qui fêtent le réveillon, alors qu'en fait, ils sont le 15 septembre, là, tu vois.
De toute façon, déjà, moi.
Et bonne année chez vous.
Un épisode sur 4, déjà, je me plante sur le numéro de l'épisode. Donc,
ouais, c'est vrai.
Donc là, 58, on est d'accord. Alors c'est 59.
Là, on est d'accord qu'on est sur le 60.
C'est incroyable, on est sur le 60, Daz.
Sur le 60, putain.
Bon, vous l'avez entendu, je suis évidemment avec Daz.
Oui, bonsoir.
Co-présente évidemment à chaque fois ce podcast, j'ai déjà dit, dans lequel on parle de musique, vous le savez, c'est un podcast merveilleux, paraît-il, le meilleur podcast du monde.
J'ai ouï dire à peu près ça
c'est
aussi.
C'est ce qui se dit, j'entends dans la rue, on va dire, tu connais DLT, le meilleur podcast du monde.
Ouais, c'est vrai. Podcast YouTube. Après, il y a les podcasts.
Mais ça, en fait,
c'est, et là, c'est
pas
possible.
On est partout.
Parce que moi, j'ai des podcasts qui sont évidemment meilleurs que DLT.
Alors peut-être. Non, ça, je peux pas te laisser dire ça. Est-ce qu'on peut dire co-meilleur du monde?
On peut dire un truc comme ça. Vas-y, ça marche.
Bon.
Mais alors, qui recevons-nous aujourd'hui?
Je l'ai dit dans l'intro, maintenant, c'est incroyable.
Oui.
Nous sommes avec Monomythe. Ça va, Mono?
Ça va bien. Merci de l'invite.
Bah, attends, avec plaisir.
Ça fait longtemps qu'on le pistait quand même.
Il y avait eu un plug il y a près d'un an déjà. Pas fait. Et puis là, ça y est, ça se fait. Trop cool.
Bah, super cool, ouais.
Oui.
Ça fait plaisir.
Je suis
un animal sauvage un peu.
C'est vrai?
Moi,
tu sors rarement de chez toi ou?
Je suis casanier et en vieillissant, ça devient de pire en pire. Vraiment. Tu sais, j'ai une pantoufle sur le pied droit et une pantoufle sur le pied gauche.
La même ou pas? Enfin, c'est le même modèle.
Ouais, c'est le même modèle ou pas. Et là, c'est fini. Après, je suis chez moi. J'adore.
Écoute,
enfermé, entouré de mes synthétiseurs.
Voilà.
On peut préparer aussi des pantoufles ici. On devrait avoir des pantoufles invitées de base, qui se sentent comme chez eux, tu vois.
Il y aurait peut-être des problèmes après d'hygiène et tout, parce que.
Alors, on mettra des trucs. T'as pas une astuce comme ça, un petit plastique pour qu'on puisse se prêter des pantoufles?
Sinon, faut des pantoufles lavables, quoi.
Ouais, des pantoufles jetables. Tu sais, des trucs des hôtels en papier.
Ah non, ça c'est horrible.
Ok, ouais, c'est un peu.
On pense à l'environnement ici.
Ouais, c'est vrai.
Sinon, tout le monde en chaussettes.
Tout le monde en chaussettes.
Faut faire ça.
À la Jap.
En vrai, moi j'aime bien. Chez moi, je suis toujours en chaussettes.
Moi aussi.
Ouais.
Ce podcast est passionnant, vous l'avez dit. Bon, Mono, il faut que je te présente quand même rapidement. Tu commences à faire parler de toi sous le nom Monomythe, avec tes deux premiers EP en particulier, qui sont Space Time Body and Soul en 2015 et Pondichéry en 2016.
Yes.
On est d'accord que c'est là où ça commence vraiment à prendre un peu pour toi.
En gros, l'idée, c'est que à ce moment-là, je suis aussi en train de travailler avec Baz.
Ah déjà.
Ouais,
okay.
Donc il y a un truc où ça c'est
Jazzy
Bass, ouais.
Justement, ces deux premiers EP dont j'ai parlé sont marqués quand même par l'esthétique house. Alors mélangé évidemment, on sent déjà des influences. Enfin, il y a du jazz, il y a des sonorités lofi, du hip hop. Enfin, on est vraiment dans ce mélange là, mais c'est quand même marqué par la house music, la musique électronique avant tout. Ces deux EP, parce que tu fais pas que ça, mais c'est une des musiques que tu fais, quoi.
Ouais, bah comme je t'ai dit là, c'était vraiment dans cette émulsion de groupe Beat Exchangers, qui à la base en fait était un motif pour que les potes arrêtent de se spammer sur leur mur Facebook.
Ok.
Parce qu'en fait, il y en avait qui envoyaient genre 20-30 liens par jour avec les dernières nouveautés et tout de musique électronique, et puis au final, ça a créé ce forum Facebook. Et de là, en fait, il y a eu...
Ah, c'était un groupe Facebook alors le...
Ouais, c'est ça, Beat Exchangers. Ouais.
Okay.
Et ça continue encore aujourd'hui. Hein. Et donc ça a servi d'écurie à pas mal de gens. Il y a plein de gens qui sont passés là. C'est marrant, si tu veux. T'avais même d'ailleurs big up à lui, mais Milan de Miel de Montagne, qui faisait de la house avant sous le nom Tel, qui était très chaud d'ailleurs en house et qui a été passé, qui avait fait 2-3 trucs avec Bitex à l'époque.
Très cool, Miel de Montagne, j'aime bien.
Et ça a été l'occasion à l'époque de nous, on a fait la première partie de quelques artistes justement avec Pulcone, parce qu'on joue en live en fait, et c'était l'occasion de rencontrer en fait par exemple, on avait fait J-Rock à l'époque à la machine, c'était c'est moi en mode fan de Dilla à l'époque, j'arrive, je suis en mode ouais, monsieur trop fort. Tu vois, lui c'était genre le ricain, il arrive en France, il s'en fout quoi, il fait son gig normal, mais nous on est en mode waouh, J-Rock.
Et donc J-Rock de Top Dog, J-Rock de LA.
Ouais, ou... J-Rock de LA.
Ouais,
ouais,
ok. Ouais.
Et du coup, il venait près des machines, etc. Et il me disait, ah, je la connaissais celle-là, Dilla. Il a utilisé. Enfin, tu vois, ouais, en mode ouais, fanboy de Dilla, t'es en mode genre, ouais, putain, je suis en contact avec la personne qui l'a connue et tout.
En même temps, y a-t-il un producteur dans le milieu hip-hop rap qui n'est pas fan de Jay Dilla? Y en a-t-il un?
Bah, il y en a peut-être qui connaissent pas forcément ouais, l'influx, ouais, mais qui s'en inspirent.
Ça commence à
et je pense que c'est d'autant plus le cas aujourd'hui où là, vraiment, je sens la résonance de Dilla ouais. encore plus aujourd'hui.
Okay. Les gens qui s'en inspirent, c'est des artistes qui l'ont connu, quoi. Enfin, c'est des...
Alors, moi, je passe pas mal de temps sur les réseaux. J'ai vu, tu vois, tu parlais de Lofi tout à l'heure. À l'époque, on disait pas ça à Lofi, tu vois, sans vouloir faire trop ouais, l'ancien. Ouais. Et maintenant, je sens qu'en fait, t'as toute une vague d'instrumentistes slash influenceurs etc etc sur les réseaux qui réutilisent ces genres de codes sans même forcément avoir
l'historique
l'essence du truc et ouais. de toute façon je vais te dire un truc bon je vais faire une généralité un peu d'anciens aigris mais il y a un truc où on perd un peu l'essence
ouais
du truc forcément à un moment et
c'est normal,
les
c'est
gens
c'est
oublient que c'était de la musique afro-américaine quand même à un moment donné comme avec les musiques électroniques et d'ailleurs ça c'est un truc que je regrette un peu à Paris où quand t'arrives dans une soirée et que tu joues de la house et on te dit tu veux pas mettre un truc plus dansant tu vois alors qu'à la base le truc c'est une musique qui est justement vachement liée à la danse en fait
ouais.
et pour moi il y a une connotation qui passe pas dans ces musiques-là, forcément en France, où on s'aperçoit pas, enfin dans la conscience collective, où il n'y a pas forcément le fait de relier le fait de relier qu'en fait c'est un truc qui est originaire de Détroit, qui est vachement ouais. ancré dans la funk, le blues, etc. Tu vois, c'est pas du tout funkadelic parliament et pas du tout en opposition avec de la grosse techno, voire même c'est les mêmes influences. Tu vois,
on a fait un épisode podcast dédié à George Clinton et à tout le P-Funk, et on a parlé évidemment de son héritage qui est colossal dans plein de genres musicaux. Notamment dans la musique électronique. Et même, t'as raison, le côté même aussi social de la house, avec souvent, en fait, des minorités qui s'expriment à travers cette musique, LGBT, noirs, latinos, qui ont été vraiment aux sources de ces musiques.
Ouais. Et nous, on a fait la French Touch. Avec que des blondes versées.
Ouais, en vrai, c'était très bien. Et ils étaient des grands fans de house et ils respectaient la house.
Bien sûr, bien sûr. Mais quand même.
Mais oui, plus versaillais, effectivement.
Ouais,
mais cette introduction part déjà dans tous les sens. On voit que t'es un passionné, Mono. Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est très cool.
Oui, je l'ai senti.
Mais je reprends juste un tout petit peu.
Ça drift,
On va rentrer en détail après sur ta carrière, sur ton approche de la musique, etc., ton regard. Mais il y avait donc cette histoire de ces deux EP. Tu nous dis que déjà, à l'époque, tu traînais donc dans la clique de Jazzy Baz. Tu vas d'ailleurs, je sais pas si c'est encore le cas, mais rejoindre son label, Grandville Records.
Ouais, c'est ça.
C'est encore le cas aujourd'hui?
Grandville, ça a dissolu à une certaine époque. Okay. Après, il y a un peu... je suis en contact avec plein de gens encore. Ouais. En fait, c'est une bande de potes plutôt. Ouais.
Bah, ça va t'amener d'ailleurs musicalement à collaborer énormément avec lui. T'es présent sur ses trois derniers albums solo, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Sur Mémoria.
Putain, Nuit et
Mémoria. Mémoria de un peu plus loin, mais quand même, quoi. Ouais. Sur l'intro et sur Zone 19 aussi.
Ok.
Mais que avec Jazzy Bass, pas avec les autres de l'entourage.
Si, avec Nekfeu aussi, il y a eu quand même.
Ouais, il y a eu de la collab. Ensuite, avec Jean aussi un peu.
Alpha One aussi, si.
Avec Alpha aussi, ouais.
Dirty
Dancing sur le dernier. Ouais. Alpha, il me fait vraiment kiffer. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est un bon gars. Il fait kiffer.
Artistiquement ou humainement?
Les deux.
Ouais.
Tu vois comment il rappe? C'est lui en vrai.
Ouais, bah oui.
Et ça, je trouve que ça, c'est lourd. Parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu qui justement sont pas forcément. Aligné
avec ce qu'ils prônent dans leur texte,
tu veux l'image qu'ils représentent en tant qu'artiste et ce qu'ils sont réellement.
C'est dur les attentes. Hein.
Ouais.
C'est dur les attentes. T'es quelqu'un, tu sais qu'il y a 200, 300 000 personnes qui attendent ton truc. Se positionner par rapport à ça, c'est pas évident. Hein. Et moi, je le vois pour être passé, tu vois, finalement de derrière le rideau à entre guillemets devant le rideau, mais plus en concept, c'est-à-dire j'essaie de faire un album. C'est vrai que se positionner en tant qu'artiste, c'est compliqué. Hein.
C'est clair.
Et puis derrière, tu mets le facteur argent en plus. Mmh. Si tu dois payer des factures, c'est autre chose. Ça peut vachement influer ton art. Et c'est pour ça que t'en as certains dans le milieu que je connais qui ont décidé de gérer leur business de côté. Puis ils font la musique. Et si ça rapporte, c'est bien. Mais sinon, au moins, ils gardent leur liberté de pas avoir quelqu'un derrière qui dit la deadline, faut qu'on fasse ça dans 4 mois, etc., etc.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a évoqué donc tes EP House, on a évoqué tes collaborations régulières avec des rappeurs, donc Click, notamment avec Jazzy Baz beaucoup, mais on n'a pas évoqué aussi Prince Wally, dont on aurait pu
aussi
collaborer ensemble. Et puis en parallèle, t'as encore une autre esthétique. Et en fait, tout ça, tu le mêles d'ailleurs dans ta façon de travailler, dans tes musiques, hein, mais des projets beaucoup plus jazz aussi.
Ouais.
Je pense notamment en 2020, où il y a Monomyth Presents Jazztronics Experiment, avec justement, si je dis pas de bêtises, ce groupe de jazz. Tu participes aux sessions d'enregistrement, tu les enregistres et derrière, tu produis à partir de cette matière, c'est ça?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait faire une répétition pour aller jouer. On devait jouer au Rex Club avec cette formation-là. Mmh. Au sein du label Jazztronics qui est fondé par mon ami Adam, qui gère ça. Et en gros, on devait jouer au Rex Club. Du coup, moi j'ai dit au gars, écoutez, je vais faire un peu la direction, on va aller dans une certaine esthétique intimement reliée justement à toute cette histoire de Tapwater dont je te parlais avant, avec les danseurs, etc. Et on a fait des répètes, et en fait les répètes, elles étaient enregistrées avec des micros pas incroyables, hein, des SM58. Donc des petits micros dynamiques, ça rentrait tout dans une, on rentrait tout dans une Behringer et tout. Et en fait, moi j'ai pris les bandes et puis j'ai bricolé un truc pendant le début du confinement, quoi. Et ça m'a grave fait kiffer. Je crois que c'est un des projets qui m'a le plus fait kiffer à faire. Il y a là dans les projets récents. Et le but, c'est de remettre la patte un peu dans ce genre de projet-là. Okay. Et potentiellement de refaire une session dans un studio un peu luxueux, tu vois. Enfin, luxueux dans le sens
beaucoup d'argent,
bien équipé, quoi.
Pas forcément beaucoup d'argent, mais avec une certaine âme. Parce que j'en ai connu des lieux avec beaucoup d'argent, mais un lieu qui a de l'âme, c'est encore autre chose. Où tu sens que ça a été conçu.
Vas-y.
C'est juste pas organique, quoi.
Est-ce qu'il y a des, enfin, pas citer forcément les lieux où il y a pas d'âme, mais au contraire des lieux qui à Paris, des studios, des qui pourraient qui t'attirent.
Bah moi, le studio qui me fait kiffer, c'est Motor Bass. Ouais. Justement, j'ai enregistré un album pour Oko avant que.
On précise juste pour ceux qui connaissent pas, c'était le studio utilisé par Cassius, Dar, etc.
Ouais, c'est ça. Bah justement, c'est là où j'ai rencontré Sdar peu de temps avant qu'il décède. Okay. Et c'était vraiment une expérience de fou. Puis il y a tout un truc de savoir vivre autour de l'espace là-bas. C'est-à-dire que, en gros, les gens qui ont repris le flambeau, il y a une vraie volonté, tu vois, de garder certains trucs que Sdar avait à l'époque. C'est-à-dire que lui, je crois qu'il avait tout un truc autour du cèdre. Ça veut dire que le savon dans les toilettes, c'est au cèdre. Okay. Ils ont un cocktail qu'ils font des fois après les sessions, que c'est au cèdre. L'odeur, ça sent le cèdre partout. Et il y a un truc où, pour moi, c'est du savoir-vivre. En fait, c'est bien d'avoir des belles machines, mais faut qu'il y ait une âme un peu dans le lieu, tu vois. La pièce principale où t'enregistres, c'est un salon avec un canapé. Il y a un truc, il se passe, c'est, et puis même le lieu, il a une histoire de fou. C'était un ancien gymnase d'aïkido, je crois. Okay. Où, en gros, il n'y avait pas de mur. C'était les murs de la bâtisse, des bâtisses autour, tu vois. Ensuite, il me semble que ça a été racheté par le gars de Star Music à l'époque, qui en a fait un studio de jazz. Et ensuite, je crois que c'est Dominique Blanc-Francard qui a dû racheter le truc.
Et son fils l'a récupéré.
Ensuite, du coup, Sdar est arrivé, il y a eu Phoenix, etc., etc. Très chargé comme lieu. Tu sens dans les murs qu'il y a un truc. Moi, j'adore. Donc, j'adorerais pouvoir concrétiser des projets là-bas. Mais ça arrivera, j'espère.
Ça arrivera. Écoute, on te le souhaite en tout
cas.
Et pareil, dans cette optique beaucoup plus jazz, t'as ton groupe Fungi, je sais pas comment tu
Fungi,
le prononces.
Fungi.
Très bien. Là, c'est vraiment très jazz, en l'occurrence.
Ouais, alors ça l'est sur les derniers projets. Après, là, on va sortir un nouveau truc bientôt, qui est un peu plus électronique, parce qu'en fait, notre pianiste Corentin, lui, il commençait à... Je crois que c'est à ce moment-là où il commençait à partir en tournée avec M. Ou même pas, non, je crois qu'il faisait d'autres trucs à l'époque. Mais bref, d'ailleurs, maintenant, super pianiste qui joue avec M, je kiffe trop comment il joue. Je le salue d'ailleurs. et vu qu'il était pas là au dernier enregistrement, on est parti dans des trucs beaucoup plus électroniques en fait. Et à vrai dire, je pense qu'on va essayer de se délier un peu de cette étiquette jazz. Moi, le jazz, c'est un mot, j'ai du mal avec.
C'est vrai.
Je citerai. Il me semble que c'était Archie Shepp dans une interview qui disait que c'était de la. C'était un terme de journaliste, ça, tu vois.
Mais tu l'appellerais ça comment alors, du coup?
Alors t'as des gens qui débattent là-dessus, t'as Théo, un trompettiste américain t'as pas mal de musiciens américains qui veulent revendiquer ça comme étant de la Black American Music.
Okay. Ce qui est vaste quand même, non?
Ouais, mais bon, en même temps, du jazz, soul, le jazz, c'est vraiment le nom que les journalistes blancs, ils ont donné pour qualifier le truc, tu vois, enfin, d'après ce que j'ai compris. Et moi, c'est un terme avec lequel je suis pas du tout à l'aise, en fait, parce que j'ai pas la prétention de dire que je fais du jazz. Et oui,
pourquoi
c'est...
Parce que pour toi, il y a... C'est une étiquette.
Le bon jazz et le mauvais jazz. Ouais, tu vois, le bon jazziste, il fait du jazz, le mauvais jazz. Non, mais, ouais, alors déjà, c'est une étiquette et.
Mais c'est trop lourd à porter ou.
Mais c'est juste qu'en fait, mec, c'est pas, comment dire, je viens pas de là-bas et tout, enfin, je suis pas.
Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que du coup, si tu fais de la Black American Music alors que t'es pas américain.
Ben, je fais pas de la Black American Music et je fais pas du jazz non plus. Je fais du truc électronique avec des instruments un peu ancrés dans des trucs où on a pu appeler ça jazz. Mais je pense que c'est une barrière qui est intéressante à dresser parce que même nous, en termes de groupe, du coup, avec Tanguy, qui est le trompettiste du groupe, qui lead pas mal, etc. Il y a un truc où ça dirige ton groupe aussi vers où tu vas te contextualiser. Tu sais, nous, on est le pays de la subvention hein, en France. Faut que tu dises dans quel genre tu vas, etc. Genre, ouais. Nous, tu vois, on a plus envie d'aller...
Dans le jazz, ouais.
Non, mais on a envie d'aller vers un truc où on est plus dans de la musique électronique, en fait. Je pense que moi, ça me définit plus à travers ce groupe. Là, effectivement, l'EP avant est plus connoté jazz, justement.
Ouais.
Mais là, on veut aller, c'est dans un truc beaucoup plus électronique.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est un abus de langage parce que littéralement, toutes les musiques, elles sont électroniques.
Ouais, ça, maintenant, je suis d'accord.
Tu vois. Ah, ouais,
je suis d'accord et c'est même pas un abus de langage. Je suis ultra d'accord et ouais. J'approfondirai en disant, genre, musique électronique de Eliane Radig à Pierre-Henri jusqu'à Fortet. Jusqu'à, ouais. Tu vois, même le jazz pour moi est une musique électronique si on part dans la vision acousmatique parce que à partir du moment où tu sonorises un truc, ça passe dans les speakers, etc., etc.
C'est électronique.
Après, on, c'est important aussi d'avoir des termes parfois mal employés mais qui permettent tous de se mettre d'accord. On comprend quand on parle.
Faites référence à la FNAC et.
Ouais, mais même aussi dans les discussions du quotidien, dans la culture, tu vois, c'est important aussi de pouvoir s'arrêter sur des
de
mots.
De pouvoir nommer les choses, mais justement, cette attribution est symptomatique de certains rapports.
Et ça, c'est vrai. Il faut toujours les interroger.
C'est ça que je te dis, tu vois, c'est comme les insultes en français. Et certains trucs de misogynie, de. Il y a plein de choses qui se passent dans le langage qui paraissent.
Normal,
et anodin, et en fait,
c'est
le rapport de domination.
Vois, et moi, je sais que je l'aurais dit, mais je suis pas du tout à l'aise avec le terme jazz. C'est un truc qui me. Tu vois, à la base, on était un. Tu sais, un groupe full blanc et tout, il y a que moi qui était un peu tismé et tout. Je sais pas, il y a un truc pour moi où je me sentais pas totalement à l'aise, tu vois. C'est même pas genre une question de bienséance ou quoi, c'est vraiment moi avec moi-même.
On a bien compris ton éclectisme, en tout cas, le fait que t'apprécies plein de trucs et que tu t'attaques à plus de trucs aussi différents. Tu vois, que t'as envie de. On sent que ta musique, t'as envie d'aller un peu, pas dans tous les sens, parce que c'est cohérent, mais en tout cas, voilà, de varier ta pratique, tout simplement. Ouais. Ce que je te propose, justement, c'est peut-être de vraiment rentrer là dans le vif du sujet. C'était presque une première partie qu'on vient de faire, mais sur justement cette navigation comme ça entre les genres. Et tu commences par faire quoi? Quand tu commences à pratiquer de la musique, c'est sous quelle forme et quels sont à ce moment-là tes désirs, tu vois, musicaux? Qu'est-ce que t'as envie de faire comme genre musical?
Tu veux dire à l'ancienne?
Ouais.
Quand j'ai commencé?
Ouais.
Ok, alors déjà, je pense pas que je me posais autant de questions.
Non, mais avec le recul, j'imagine que tu peux te dire.
Non, mais par contre, je peux t'inscrire mes influences assez précisément. Ça veut dire que.
C'est quoi le premier truc que tu joues? Tu joues d'un instrument? Tu te mets
la guitare
tout de suite?
Ouais. De la guitare et je me demande si c'était pas le morceau de Wyclef Jean là, un truc à l'ancienne là.
Okay. Ah 911.
Ouais, je pense un truc.
Ah, attends, c'est quoi, parce qu'on va écouter tes morceaux, mais on peut s'écouter aussi
Someone Please Call 911.
Je me souviens que je jouais ça à la gratte quand j'étais petit, sinon
c'est là que ça me flingue parce que moi j'étais pas petit.
Ouais, je.
Oh putain, mais c'est récent.
C'est assez récent en vrai. Non, mais j'ai dû jouer des trucs avant, mais je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. J'ai un souvenir de moi en train de jouer sur une guitare, ce truc-là, tu vois.
2000, ça date de 2000.
Ah, ça a quand même 23.
Tu vois, je mets juste le refrain, tout le monde va reconnaître.
Tu vois ce genre de truc. Ouais.
Avec Mary J. Blige sur le refrain. Oh là, c'est encore Wyclef Jean, mais je crois qu'elle a rien. Bon, gros tube de l'époque.
Ah oui.
Bon, c'était pas ma big inspi. Là, c'était plus un. Bon, pour le coup, c'était plus un souvenir à l'ancienne. Mais sinon, j'ai eu pas mal de Jimi Hendrix à fond.
Okay. Donc le rock, c'était un truc important pour toi à ce moment-là.
Plus le blues.
Le blues.
Même Mahalia Jackson.
Okay.
Voire même les Negro Spirituals et tout. Moi, le blues, c'est ma fondation, le funk aussi, donc Prince aussi. En fait, si tu veux, j'ai mon père et mes parents qui, à ce moment-là, qui ont plein de disques à la maison. Donc, moi, j'écoute des vinyles tout le temps. Frank Zappa à fond aussi, genre, okay. Genre totalement.
Oui, vraiment mélomane pour avoir du Zappa à la maison.
Ouais, bah, tu sais, nous, il y a un truc où on fête la musique un peu. Hein. C'est genre, mon père, il trouvait un truc dans la poubelle, il le joue, tu vas l'entendre 30 fois, on s'en fout si c'est pourri, en fait. Donc, il y a un truc déjà où on écoute tout ce qui passe. Moi, je me suis déjà fait réveiller par des trucs à l'époque. Je détestais tous les trucs des années 80. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Après, j'ai appris à aimer. Donc, un éclectisme assez, assez varié. Et en même temps, j'ai mon frère à ce moment-là qui a 10 ans de plus. Donc, moi, tu vois, j'ai 6 ans. Lui, il a 16 ans. Déjà, il fait du skate. Il traîne avec des gens cool et il va en fête et il écoute de la techno rapide et tout. Donc, et il écoute du Peura et il écoute la radio aussi à ce moment-là. Et donc, à Nova. En 98, 99, il y a déjà des trucs assez éclectiques qui passent le soir, tu vois. D'ailleurs, j'ai déjà retrouvé des cassettes de lui à l'ancienne où t'entends du Fortet, des trucs comme ça. Ouais. Donc, c'est le mélange de cette espèce de culture 70-80, de la musique indienne aussi.
Ouais.
Parce que bah, j'ai baigné là-dedans.
Il y a tes origines.
Ouais, il y a mes origines. Mon père a été métissé à moitié indien. Et donc, tout mélangé en même temps, en fait. Donc ça, pas mal de musique électronique, du métal aussi. Ah avec ça, ouais grosse fondation grosse ouais. Fondation blues rock blues funk même ouais voilà.
Et pourtant il est pas lyonnais tu vois.
Ouais comme c'est quoi, fou hein, comme quoi funk pas que à Lyon quoi.
Et avec toutes ces influences enfin ces sources d'inspiration quand tu te dis tu te mets à la gratte et tu te dis est-ce qu'il y a un déclic à un moment genre j'ai envie de proposer ma musique à d'autres gens tu vois pas seulement de jouer moi dans ma chambre mais j'ai envie de, pourquoi pas d'enregistrer ça et de le proposer à des gens ou alors peut-être d'aller jouer d'ailleurs dehors je sais pas si c'est plutôt le live qui t'amène à faire de la musique comme ça.
Moi à la base en fait c'était le simple fait de s'enregistrer c'est un truc qui me faisait beaucoup envie quand j'étais petit j'avais déjà je me souviens j'avais déjà envie à l'époque d'avoir un Tascam et un micro et d'enregistrer je me disais allez je vais enregistrer en beatbox et je vais faire de la guitare c'était déjà mon truc à l'époque tu vois. Et donc le vrai tournant ça a été à 12 ans quand j'ai rencontré Norbert Nobourg, le père d'Ismaël Nobourg qui est un batteur qui joue sur Paris, tu as pu le voir aux côtés de Youssoupha ou Chassol également. Et donc je le salue également. Ça a été quelqu'un d'important pour moi son père parce qu'en fait moi j'étais dans si tu veux en fait jouais les White Stripes dans la cave d'un pote, lui faisait de la batterie et moi je faisais de la guitare. Maintenant, il a une ferme en Bretagne, mon pote Nils. Ouais. Donc, ses parents, ils avaient une maison dans le 19, tu sais. Ils l'ont eu dans les années 70, je pense, quand c'était encore faisable et tout. Ouais. En gros, il avait une cave, une batterie, une guitare. On venait, on jouait, tu vois. Et en gros,
arrondissement de Paris. Donc, tu es parisien.
Oui, oui. Moi, je suis dans le ciment. Je vais me noyer dans le ciment actuellement. J'ai jamais été. Enfin, je suis très ancré dans le 19e arrondissement particulièrement, tu vois.
Bah, tu dois être content d'être là. Parce qu'on est
ouais,
dans le
19e. Non, j'adore. Je suis en terrain inconnu, quoi.
Pardon, je t'ai interrompu, oui.
Et pas de souci. Et en gros, donc on joue les White Stripes. Lui, il a un groupe en mode. Un peu, tu vois, groupe d'enfants qui jouent, chorale, tu vois, petit groupe d'enfants qui jouent, ça joue Blue Bossa, des trucs comme ça. Et en gros, le père d'Ismaël, un jour, il vient, il dit, tiens, c'est qui ce gamin et tout? Moi, j'ai un groupe de reggae avec des enfants, viens au truc, tu vois. Et alors moi, totalement à l'arrache, j'arrivais 2 heures en retard au répète et tout, j'étais en galère. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis mis à jouer la guitare dans ce groupe d'enfants, donc ça s'appelait Minimum Screw.
Est-ce qu'il était professeur, ce monsieur, ou il était...
En fait, lui, il est batteur. Ok. Et il est batteur de reggae, et en gros, il avait un studio sous les voûtes d'Ourcq, donc près de la Petite Ceinture, qui sont des rails abandonnés, en fait. Et sous les voûtes, il y avait des studios, et lui, en fait, il tenait un studio comme ça, où il y avait... des cousins, des oncles comme ça, des copains qui venaient répéter, tu vois. Et il y avait ce fameux groupe d'enfants là, et donc il m'a pris sous son aile et il m'a appris 2-3 trucs quoi. Il m'a appris à me concentrer, à mémoriser, à aussi trouver mon move à la guitare. Okay. Et de fil en aiguille en fait.
T'as un move à la guitare que t'as gardé encore aujourd'hui.
Ouais, non mais un truc de balancier parce que moi je suis arrivé, j'étais stoïque, tu vois, et il me disait mais attends. Faut que tu trouves ton déhanché.
Très vite, t'as eu conscience du jeu de scène entre guillemets, enfin du fait qu'il faut avoir aussi une attitude particulière sur scène. C'est cool ça. Enfin,
Bah ouais, tu vois, genre ouais, vraiment.
Mais du coup, ça veut dire que t'as commencé avec le groupe de ton pote, et après t'es parti jouer avec le groupe monté par son père.
Ouais.
C'est-à-dire t'as abandonné tes potes.
Et entre temps aussi j'ai fait un autre groupe dans ce truc-là. Mais oui, je les ai abandonnés. Tu sais comment c'est quand on est plus jeune. T'en as, ils continuent pas la musique. Ouais. Donc t'as 12-13 ans, et y en a, ils lâchent pour autre chose, et tu les vois plus trop, et après ça s'essouffle, etc. Je sais plus comment ça s'est passé là, mais c'était...
Ouais, y a pas eu un abandon...
Non, y a pas eu abandon de poste, non, ça allait. Mais c'était ultra, ultra formateur. Et surtout de jouer du reggae, tu vois, genre... Moi, en fait, si tu veux, bah justement, je t'en parlais, Dawit, à l'époque, le bassiste... Donc il y avait son frère qui jouait la batterie, Noam aussi. Je le salue également.
On va saluer beaucoup de gens aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. Mais vraiment. Non, mais Paris, c'est toute une histoire. Et d'ailleurs, il rappe maintenant et je suis content. J'ai vu Fat Joe, il a dit que son il était bon et tout. Il a FaceTime et tout en mode mec, ton son il est bon. Attends, donc Noam Rastaflex, allez voir ce qu'il fait. Et en gros, si tu veux, en fait, Dawit, le bassiste, il y a un concert où il est pas venu. Et je pense qu'il avait eu des galères à ce moment-là. Et je me suis retrouvé à devoir jouer la basse dans le groupe, en fait. Et c'est là où je me suis pris par amour pour la basse et que là, j'ai plus bougé. En fait, mon père m'a toujours dit, la basse et la guitare, c'est un peu pareil. Si tu chopes la guitare, tu vas choper la basse, c'est des cordes, tu vas t'en sortir, tu vois.
Ouais.
Et de fil en aiguille, du coup, j'ai remplacé à la basse. Et en fait, j'ai dit, attends, mais les basses fréquences, c'est trop kiffant. C'est cet endroit que je veux avoir, tu vois.
Mais c'est vrai que normalement, dans l'imaginaire, le bassiste est un peu en retrait par rapport au guitariste, qui a plus un côté lead.
C'est souvent ce que dit le grand public, mais les musiciens souvent sont fans de basse, en fait. Enfin, c'est un truc que je constate beaucoup. Moi, par exemple, je suis pas un grand musicien, loin de là, hein, mais je pense que c'est mon instrument favori, en fait, la basse. J'en joue un peu, mais je joue sur la guitare.
Merci.
Je pense que c'est mon
non, mais c'est vrai que quand favori, tu t'intéresses à la musique, tu fais beaucoup plus attention à la basse, parce que, elle est là tout le temps et.
Ça dépend qui, hein.
Ah ouais,
il y a des gens.
Tu connais des musiciens pros qui sont pas si.
Ah oui, oui, des musiciens pros peut-être, mais plus particulièrement, je veux dire les gens là, les moldus là-bas là. les moldus, ils s'en foutent, hein, ils captent pas trop.
Ouais, mais c'est ça.
Mais c'est un truc de sensation, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que du coup, c'est un truc que tu vas beaucoup avoir dans le mixage, dans le mastering. Il y a un truc qui est autour de la sensation où en fait t'as des gens qui vont pas capter ce qui se passe.
Mais ils le ressentent quand même.
Et ils sauront pas ce qui se passe, mais ça fait une grosse diff. Tu vois.
Ouais, tu
le vois bien, avec tout le monde est sensible à un système ston qui va vraiment bas dans les graves et où t'as ces vibrations. Tu ressens physiquement les graves. Ça, tout le monde y est sensible.
Ouais, bien sûr. Oui, mais en fait, c'est juste que là-bas, c'est la colonne vertébrale de plein de morceaux. C'est la structure, la chanson, le titre tient grâce à elle. Et en fait, c'est vrai que je trouve que effectivement, c'est un truc qui est un peu pas overlooké, mais elle est là,
tu vois. On s'arrête pas assez dessus.
On s'arrête pas dessus.
Ouais, la guitare peut très bien être un instrument d'accompagnement également.
Mm-hmm. Ouais.
Moi, je sais que quand je joue de la guitare, même si je joue en solo, je me place en tant qu'accompagnateur. Parce que je sais pas, c'est.
Mais la différence, c'est qu'il y a toute une iconographie autour du guitariste, tu sais.
Ouais. Guitar Hero.
Qui change quand même le rapport au truc.
Ah, mais ça c'est clair. Oui, mais on parlait d'Hendrix avant. T'es en plein dedans. Hendrix, Jimmy Page.
Santana.
Non, mais c'est vrai en vrai. Hein. C'est cette histoire de.
Slash pour une autre génération.
Ouais.
Slash totalement. Guns N' Roses, ouais.
Mais c'était un peu c'était les frontmen, tu vois.
Oui.
Les guitaristes.
Oui, tout à fait. C'est important. C'est ce qui a beaucoup évolué, ce qui attriste beaucoup d'ailleurs de guitaristes. Au final, est-ce que c'est si grave?
J'ai l'impression qu'il y a un public pour ça, mais dans d'autres pays, il me semble qu'en Amérique du Sud, ils sont vachement rock.
De toute façon, et puis même, tu vois, la scène guitare, je pensais, enfin, surtout, tu sais, aux mecs techniques, machin, etc. En fait, elle est ultra riche. Tous les guitaristes qui aiment la musique à guitare, entre guillemets, ils ont tellement à s'en mettre sous la dent aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu autant de mecs aussi forts, etc. Puis avec toute la vague des créateurs de contenu, guitaristes qui en plus proposent très facilement ce qu'ils font en vidéo, etc. En vrai, il y a une profusion de guitaristes géniaux. C'est juste par contre qu'effectivement, notamment pour aller défendre sur scène, ça va pas être de la même manière. Et que dans un groupe qui n'est pas basé sur la guitare, le guitariste va être un musicien parmi les autres, et c'est pas grave, tu vois.
Il a le seum un peu,
il dit, ah putain, si j'étais né 30 ans avant.
Non, puis t'as des styles de musique où volontairement t'as plusieurs styles de guitare. Je pense notamment à la rumba congolaise où des fois sur scène t'as trois guitares différentes, t'as rythmique 1, rythmique 2 et lead. Et c'est des tafs différents. C'est pas la même.
Tu vois, je connais pas du tout la rumba congolaise. Par contre, je sais que pareil, je je connais pas grand chose en reggae pour être honnête, mais je sais qu'il y a une incompréhension, notamment ici, enfin, en tout cas moi je l'avais en tant que guitariste et je le voyais autour de moi, sur une apparente simplicité et une façon de faire en fait le rythme reggae qui n'est pas du tout en fait le rythme reggae, tu vois. Je pense que tu vas tout de suite faire le truc sur les retours, tu vois, sur le lever de main, etc., ce qui ne se joue pas de cette manière. Et en fait il y a une main droite extrêmement technique et rythmique particulière du reggae et qu'en fait on est peu à maîtriser, alors qu'il y a plein de gens qui se disent oh, je fais un truc reggae, tu vois.
Ouais, il y a une technicité dans certaines choses qui va se situer sur la conceptualisation de la musique plutôt que sur des fois même des éléments extrêmement techniques.
Pratique, ouais.
Ouais, après tu peux pratiquer le concept aussi, c'est ça le truc. Et ça va être des choses plus abstraites qui sont pas forcément à portée de tout le monde. Enfin, si, c'est à la portée de tout le monde, mais
je parle plus de groove à ce moment-là, c'est quoi?
Ouais, il y a ça aussi, il y a des questions de feeling, c'est beaucoup une question de feeling. Mais je sais pas, c'est...
Mais fondamentalement, c'est du placement rythmique.
Ouais, du placement rythmique et de la culture aussi, de savoir de quoi tu parles, quoi, dans le sens d'avoir écouté des disques en particulier. Tu vois, un exemple, je trouve, de reggae qui a été vachement bien intériorisé, pour moi, c'est un track d'Outkast qui s'appelle Spotty Hoppy Double Shoes.
Tu veux qu'on se fasse
un extrait? Alors celui-là, avec plaisir, parce que... Autant le Wyclef tout à l'heure, c'était plus pour l'anecdote, mais celui-là...
On sent qu'il assume pas trop le Wyclef tout à l'heure.
Si, ça va, mais le Outkast, là, mec... Puis ça, c'est un son que j'utilise pour tester des sound systems aussi...
Celui-là ?
Ouais, la basse, elle est incroyable. En fait, il y a un truc que je comprends pas sur la basse.
On s'écoute un extrait et
ouais,
on en parle après.
À fond.
Bah oui, bien sûr. Avec les cuivres aussi, là.
Ouais.
Un jour,
ça tue ça.
Un jour, on se rendra compte de l'apport d'Outkast à la musique moderne.
Mais ça c'est de la dinguerie. Hein.
Mais
ça
nous
fait plaisir à Logi qui
ah bah Organized Noise, bah oui, enfin Outkast depuis le départ.
En fait, tu vois là-dedans, là, moi j'entends des gens qui ont écouté beaucoup de reggae et qui ont fait un morceau influencé par le reggae sans forcément essayer de faire un faux reggae. Il y a une, il y a une forme de respect, de compréhension qui transpire dans cette musique-là. Là, ils ont utilisé des codes. Tu fais faire ça à quelqu'un d'autre, ça sonnerait horrible. Là, le ça pourrait être ultra cliché. Mais il y a un truc dans le son où, ok, c'est un genre de reggae, il faut que la basse, elle soit fat, sauf que là, ils l'ont fait fat, mais à leur manière, tu vois. La batterie, elle va pas... Il y a un truc où ça aurait pu être un très mauvais morceau de faux reggae, et en fait, c'est un super morceau de musique, tu vois, sans forcément que ce soit du reggae.
Mais j'aime beaucoup... Enfin, Organized Noise, donc c'est l'équipe de prod d'Outkast depuis toujours. Et en fait, même sur leur premier album, qui était très ancré rap façon West Coast, même si ça vient d'Atlanta, tu vois, il y a des morceaux, il y a un morceau sur donc l'album s'appelle Southern Playalistic Cadillac Music,
ouais.
Et tous les titres c'est des
bangers. Bien bossé, hein, parce qu'il est difficile à prononcer, hein.
Ouais, mais je le bosse depuis 94. Et en fait, il y a un de mes morceaux préférés aujourd'hui, c'est un des morceaux que je skiffais le plus quand j'étais jeune, tu vois, et c'est un morceau qui s'appelle Funky Ride, qui doit durer 8 minutes. À la fin, il y a une meuf qui jouit sur le titre, tu vois, enfin, donc c'est des trucs que tu pouvais même pas l'écouter chez toi quand il y avait tes parents, parce que c'est quoi ce bordel et tout. Et c'est un morceau, enfin, c'est limite un ovni dans l'album, parce que c'est des mecs qui parlent à la base d'histoire de pimps, tu vois, de Cadillac, de machin, de gangster, et t'as une plage musicale en fait de 8 minutes qui a rien à foutre là, tu vois. Et c'est trop bien, en fait, c'est trop bien.
C'est sûr que c'est André 3000, ça.
Bah, franchement, non, mais moi je. Bah, enfin, André 3000 à l'époque, il avait 16 piges, le mec.
Ah ouais?
Donc le premier album, fou, ils sont ça. Tout petits. Ils sont
c'est sur celui-là qu'il y a Roses ou c'est un autre?
Non, c'est après.
Ah oui, c'est après ça.
Mais en fait, tous les titres d'Outkast, en fait, le fait que musicalement, ils sont dans le turfu, ils sortent un deuxième album où ils prennent tout le monde à contre-pied quand ils ont fait E.T. Aliens, en fait, qui n'a rien à voir avec le premier. Et du coup, bah, les mecs qui s'attendaient à de la musique de gangster, de G-Funk, ils sont là, ils font wow, attends. Et en fait, il y a quand même des bangers dedans, tu vois. Et franchement, je trouve que la recherche musicale tout au long de la carrière du groupe,
Elle est incroyable, mais ouais. Vraiment quoi.
Et vous avez écouté l'album de flûte d'André Tremel?
Mais oui, mais moi j'ai kiffé. Écouté.
Alors?
Moi j'ai kiffé.
Moi j'ai pas écouté encore.
Moi j'ai kiffé.
Moi j'ai kiffé.
Moi j'ai kiffé. En plus, c'est marrant parce
et
que
on précise juste donc c'est un des rappeurs donc du groupe Outkast
ouais.
Dont on parlait
oui, oui, oui.
Et qui en fait vient de sortir un album purement instrumental où il y a juste lui qui joue de la flûte.
Ouais.
En gros, et ce qui a
mais
pris
c'est de la flûte,
tout le monde et tout le monde trouve ça bizarre.
Bah lui, oui. il a dit les gars, en fait, moi je commence à être un vieux là, je sais plus sur quoi trop rapper. Quand j'essaie de rapper, ça marche pas. En fait, je vais faire la flûte.
Ouais. Et je trouve la démarche ouf.
Moi, j'adore. Et en plus, il s'est entouré de gens. Alors, c'est assez marrant parce que je l'ai recommandé à une amie, cet album. Et en fait, en lui recommandant, je lui dis « Ah, si t'as kiffé ça... » Non, c'est pas que je lui ai recommandé. Voilà, c'est qu'elle m'en parlait. Et en fait, je lui ai recommandé des artistes, donc notamment Carlos Nino, qui fait des trucs sur la West Coast pas mal, je crois. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que je crois que c'est lui qui fait partie de la prod de l'album ouais. d'André 3000. Okay. Donc sans faire exprès, je crois que j'ai fait un peu le lien pour des raisons de son, je pense, parce qu'il y a un truc qui se retrouve un peu. Il me semble qu'il y a Shabaka Hutchkin aussi.
Je connais pas.
Qui est un saxophoniste qui joue aussi dans un ancien groupe. Je sais pas s'il joue encore Sons of Kemet, etc.
Ah, ça me
parle,
ça.
Ouais, tout ce qui est dans le jazz anglais, etc. Et alors lui, il est trop fort et il a un Instagram incroyable avec toutes les flûtes qu'il joue. Là, notamment, il y a récemment, il m'a fait découvrir, du coup, à travers ses vidéos, une flûte que je connaissais pas, qui est, il me semble, Maya, où en gros, si tu veux, t'as deux notes qui sont extrêmement conjointes, tu joues deux notes en même temps, ça résonne, et en gros, vu que c'est un peu désaccordé, entre guillemets, tu vas entendre les battements harmoniques. Okay. Donc, ce qu'on appelle un battement harmonique, c'est quand tu mets deux notes qui sont proches mais pas exactement, et du coup ça crée ce qu'on appelle un battement harmonique. Donc à la guitare, quand tu t'accordes avec les harmoniques, pour ceux qui connaissent, ça fait
c'est
fameux
pas encore à l'unisson, donc
c'est
ça veut dire
ça
fait ça
et le principe de la flûte en fait, c'est que c'est ces oscillations là qui créent la musique. Et donc en fait, selon les doigts que tu joues, ça va faire plus ou moins
un trémolo intégré quoi.
Voilà.
Parce que, ouais.
Et donc assez incroyable tout autour du souffle en fait. Donc ça a été un de mes amours récents, c'est la flûte.
Tu vois comme André 3000.
Donc je t'avoue que tu me parles de l'album d'André 3000, oui, je suis client directement, j'achète.
Mais après c'est compréhensible que les gens aient été pris un petit peu
Il y a une forme de conformisme et il y a un rapport au capitalisme avec la musique et à la rentabilité aussi qui est assez accrue aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est genre il faut que ton truc soit il faut que t'aies une forme de justification de l'existence de ton truc, en fait. Et moi, j'aime bien que, en tant qu'artiste, tu dis non, moi, je...
Mais c'est marrant parce que tu parlais de ça tout à l'heure, de respecter les, tu sais, répondre aux attentes qu'on place
ouais,
en toi.
Ouais, ouais.
Et je me dis justement, ce gars-là, André 3000, qui est vraiment, je pense, un des tout meilleurs lyricistes, quand le mec, il était au micro, en fait, il a aucune leçon à prendre de qui que ce soit, parce que André 3000 au micro, il déchire, en fait. Et ce mec-là, je me dis, il arrive à un niveau de perfection sur la partie purement rap, ou du coup il se dit bah j'ai envie de faire de la flûte, vas-y tu vois, mais je me dis les mecs de sa maison de disque à un moment donné ils ont dû lui dire eh, t'es sûr quand même là parce
mais lui
que,
il a plus de maison de disque hein,
bah, je sais pas si
il a hésité chez Epic
ouais, c'est ça, il a hésité à faire la promotion de ce truc. Il en parle dans une interview que j'ai vue de lui sur YouTube vis-à-vis de sa sortie justement, et lui avait vraiment hésité
à en faire la promo quoi.
À en faire la promo, il a dit bon, on est dans une société où ça marche d'une certaine manière et bon, il y a un juste milieu à tout. J'avais envie que les gens écoutent quand même, donc j'ai fait la démarche de quand même promouvoir
faire
ce projet, tu vois.
En l'occurrence, là, je le vois seulement sur Spotify, hein, mais il y a du million d'écoutes.
Il y a un million de curieux en fait.
ça fait effectivement, comme tu dis, là, on en parle aussi. Aujourd'hui, c'est un truc.
Parce que même les titres.
Oui, il a fait les titres.
Les titres,
les titres, il me tue. Mais tu vois, il y a le premier titre, je sais plus ce qu'il raconte, mais il est en mode j'ai essayé de rapper, j'ai pas réussi et j'ai fait ça.
Attends, bah, c'est quoi ton roulet? Effectivement, il s'appelle I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally. Et j'arrive, je vois pas la suite.
The
encore.
Only thing I came up with or something like that.
Bon, effectivement, il justifie sa démarche.
Ouais.
C'est bon, le morceau dure 12 minutes, ouais. Putain, tous les morceaux, 13 minutes, 10 minutes.
Ah, j'adore
minutes.
Cette liberté.
Incroyable. J'avance un tout petit peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble.
Il a de la chance d'avoir de l'argent pour faire ça. J'adorerais être aussi détente.
C'est
incroyable.
C'est charmé. Moi, j'ai kiffé.
C'est marrant, je trouve qu'il y a presque un truc un peu, tu sais, library music d'une certaine époque et tout, ce côté très atmosphérique et tout.
Moi, je ressens beaucoup Pharoah Sanders.
Ok.
Alice Coltrane. toute la mouvance justement spirituelle un peu. Plus contemporainement, Angel Bat.
Ok, je connais pas ça.
Avec Fungi, on a fait une première partie pour elle là. Franchement, c'était un des concerts les plus cathartiques que j'ai vécu de la voir.
Ok.
Ouais, big up à elle, hein. On la salue d'ailleurs.
il faut prendre note là de toutes les personnes à big up.
Elle est vraiment incroyable et puis j'ai kiffé. On a joué dans une église à Rambuteau là et c'était incroyable, hein. Son concert là.
L'église à Rambuteau, c'est pas ce qu'ils font à la bouclette Ah non, c'est Saint-Eustache.
Non, c'était à Châtelet, ouais, c'était Saint-Eustache. Ouais, ouais.
Okay.
Il faut que oui, on parle de la bouclette, pardon. Là, on est en mode private joke. Ouais. Il faut qu'on reconnecte quand même un peu toi à ta musique.
Ouais. N'hésite pas, hein, parce que moi, je peux te parler pendant 3 heures des grains de la table là.
Eh ben, on va faire un épisode de 4 heures de DLT, très bien. De toute façon, on est foutu dans cette émission. On n'arrive plus à faire moins de 2 heures maintenant.
Ouais. C'est la première de l'année, on y va tranquille.
On a compris tes refs, mais
on a compris la guitare.
Ouais.
Puis la basse.
Ouais.
Mais après.
La musique électronique. En fait, je veux qu'on arrive à la musique électronique pour qu'on puisse commencer à se mettre des extraits, notamment de Pondicherry, de Space Time Body and Soul, tu vois, pour qu'on voit un peu ta musique.
Ouais, ouais.
Qu'on l'écoute, parce qu'on l'a toujours pas fait, c'est vrai, jusque-là. Comment tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire de la musique électronique. En plus, tu considères que ce que tu fais, toi, globalement, c'est de la musique électronique.
Ouais, ouais. Bah, c'était l'histoire des danseurs, là.
Ah oui, c'est ça. On reconnecte en fait, avec l'intro.
Ouais, c'était moi, ça connecte tout le temps, tout ensemble. C'est ça le problème des fois. Mais ouais, c'était vraiment l'histoire avec les danseurs. Ok, j'ai envie de faire un truc. Et tu sais, on m'a pris par la main un peu, genre, ouais. On va faire un. J'ai eu la chance d'être encadré pour pouvoir faire des projets. Donc c'était pas nécessairement des projets où je vais le plus justement être éclectique. Je m'inscris dans un style, tu vois. Par exemple, mon projet Pondichéry, concrètement, c'est mon pote Noyeux Graphique qui vient à la maison et qui me tient par le bras en me disant « Moi, il faut que ça sorte, vite !» Et moi, je dois partir en Inde voir de la famille. Et je suis un peu pressé, on finit un peu tout dans l'urgence. Et c'est un peu la vision de mon pote de ma musique. Donc c'est intéressant aussi, j'aime bien, tu vois. Donc Pondichéry et Space Time, ça a été ça, tu vois.
Il y a des morceaux dont aujourd'hui encore tu es fier ou que tu apprécies particulièrement sur ces deux EP qu'on pourrait s'écouter.
Tu peux mettre Innocence parce que c'est justement ce qui est moins connoté. C'est là où j'ai eu moins de pression justement.
Ok. Ça, le titre est bien donc.
Ouais. c'est quoi, c'est marrant. Hein. C'est marrant, c'est vrai, t'as raison.
En 2015, Space Time, Body and Soul, Innocence. Tu disais quoi, t'aimes la basse, c'est ça?
Ouais.
Pardon, je remets.
Ça y a le truc Herbie un peu à l'ancienne.
Très breaké aussi.
Ouais, bah ça, d'ailleurs, ça avait pas mal plu aux Anglais à l'époque.
Ouais, ça m'étonne
pas. À Bradley Zero, c'était ça son Bradley Zero, le gars qui était pas mal dans Boiler Room à l'époque, là. Il y avait Jordan Rakey aussi qui avait kiffé à l'époque.
Ok.
Ouais, en mode broken beat en fait. Ouais. Moi je kiffais, je me prenais à fond le broken beat à cette époque. Tu vois, IG Culture, Bugs in the Attic, Kaidi Tatam, toute la scène broken anglaise.
Et sur Pondichéry, il y a un morceau qui te...
Peut-être un peu moins, mais par contre j'ai un morceau, il y a une histoire sur le break, c'est Flying Saucers.
Ouais.
Où vraiment. Le morceau en soi, il est pas incroyable. Par contre, le break.
On est un peu en fond. T'es content de ton break?
Ouais. En fait, je l'ai repris d'une vidéo où J-Zone, tu vois ce beatmaker?
Pas du tout.
C'est un mec qui est vachement dans la débrouille. Il parlait de ce break. Je l'ai samplé. Et il est incroyable, c'est un break de Cool and the Gang. Et vraiment.
Flying Saucers.
C'est Richard Pryor derrière.
New York,
Ouais, voilà, c'était un petit skits.
D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve, il faudrait qu'on en parle tout à l'heure, parce que, en vrai, j'ai kiffé de ouf ton dernier album, Situations.
Ouais, merci.
Et qui juste, enfin, en fait, c'est le fait que tu parles de skits. C'est pas du tout un skit, mais je trouve que sur cet album, je sais pas si tu considères que c'est un truc majeur dans ta discographie et tout, mais on sent en fait que t'as voulu poser une atmosphère, une ambiance, ouais, un truc, et dire voilà où j'en suis. Moi, je trouve même un peu touchant cet album. Je sais pas, il y a un truc de. Alors que tu sais, je me suis pas dit à des moments genre ah là, on est à un climax d'un truc ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. C'est une espèce de tout comme ça qui fonctionne cohérent, de voyage, tu vois.
Ouais, ouais, complètement.
Parce que la forme aussi est un peu déstructurée, un peu bizarre, tu vois.
Ouais, donc, ouais, à fond.
C'était le but, j'imagine.
Ouais, ouais, à fond. Bah, c'est un journal intime, hein, en vrai, ouais, cet album. Et maintenant, je suis encore à un autre point de ma vie et j'ai envie d'autre chose.
Faire autre chose.
Ouais, parce que là, tu vois, j'étais. Et tu sais, c'est pas évident de défendre de la musique triste, en vrai.
Ouais.
Parce que.
Non, on dit souvent que c'est. Enfin, moi, en tout cas, je me l'applique, que c'est plus facile de faire de la musique triste, par contre, que joyeuse. Non?
Écoute, pour la faire, peut-être que c'est un exutoire, mais après, pour la défendre et la mixer, ouais, c'est pas évident, parce que quand tu réécoutes 30 fois la même chose, que ouais, personnellement, je suis assez honnête avec ma musique, en tout cas, j'essaye, et tu te replonges dans une certaine palette d'émotions. Quand c'est dur, du coup, t'es en train de.
Là, tu te le reprends.
Tu te ressasses des trucs un peu difficiles de ta vie en boucle comme ça. Moi, c'est pas forcément un truc qui a été extrêmement facile. Par contre, bah du coup, j'aspire en fait maintenant à faire des trucs joyeux, tu vois. Ouais. Ça y est, là, ça va être une nouvelle ère. J'ai plein de projets en fait. J'ai envie de faire pas mal de choses. J'ai envie de retourner un peu vers la musique électronique, donc à savoir vraiment house, etc. Mm-hmm. J'ai envie de faire de l'ambiance aussi.
Ok.
Ouais, j'ai envie de faire de l'ambiance.
Comment tu t'en arrives à faire des. En fait, je sais pas comment l'aborder parce que t'aimes pas le mot jazz. Mais tu m'emmerdes en fait. Tu
vois. Musique.
Mais tranquille, tu peux.
Noire américaine.
Je te donne le pass.
Tu sais, bon, ok, très bien. Enfin, comment tu vois, tu te retrouves par exemple à faire avec Fonguy. On peut s'écouter un extrait d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des morceaux. Vous avez votre petit tube, enfin celui qui a vraiment engrangé le plus.
Ouais, c'était Villejuif LA, ouais.
Exactement. Bah, tu sais quoi, on s'écoute un extrait.
Ouais.
Et après, tu nous dis comment t'en es arrivé à faire cette musique-là. Ça te va?
Yes.
Qui est pas du jazz, on le précise. Villejuif LA, Fonguy.
Bah c'est pas du jazz.
Attends, ça arrive. C'est vrai qu'on est plus sour là, tu vois.
Roy Ayers là.
Ouais, de ouf. Tu vois, il y a un petit thème.
Alors là, c'est jazz un peu ou pas?
Non.
En vrai, moi, tu me mets des leads, tu vois, de
bah, ouais,
cuves comme ça. Pour moi, c'est jazz, tu vois.
Jazz. Non, ouais, moi, j'étais plus sur le road.
Après, easy listening, tu vois, mais quand même
ouais,
un peu jazz.
Ouais. Ah, t'inquiète, la suite, ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on est sur des trucs beaucoup plus expérimentaux.
Mais moi, ouais, j'aime beaucoup ça, en l'occurrence.
Ouais, là, mais
moi,
là,
c'était
la vibe,
mon
là,
moment
ouais,
préféré dans le groupe, c'était ce track-là. Ouais, bah, on l'a beaucoup joué sur scène, etc. Et justement, j'étais un peu le thème... J'en parlais souvent à Tanguy, je l'ai trop entendu là, ça y est.
Ça, il t'a rendu fou.
Il m'a rendu fou, mais j'aime beaucoup ce qu'on a fait là récemment, ça me fait vraiment beaucoup kiffer. On a envie d'un truc plus volant en fait, moins concret si tu veux.
Et alors, pourquoi cette difficulté à assumer le terme? Et parce que, je sais pas quel est le bon terme à utiliser dans ta vision des choses, mais par contre ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des gammes, des accords, etc., qu'on associe quand même à une esthétique plus jazz. Il y a aussi une forme d'apprentissage qu'on met en place. Est-ce que justement, toi, c'est passé par là, t'as commencé à prendre des trucs, et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à faire des trucs jazzy, entre guillemets, si c'est pas du pur jazz, tu vois, mais c'est en t'inspirant de trucs, c'est techniquement en te perfectionnant la guitare, je sais pas, en jouant des gammes jazz, entre guillemets. Et, tu vois.
Bah, j'ai quand même écouté pas mal de jazz fusion, je l'ai pas cité quand j'étais petit, mais... mon père était grave fan de Stanley Clark et tout.
Okay.
Tu vois, donc toute la clique, Chick Corea, Stanley Clark, George Duke.
T'as cité Herbie Hancock aussi.
Herbie Hancock. Donc c'était dans la continuité. Mm. Et bah tu sais, nous on avait des vinyles et tu sais comment c'est les vinyles en France, dans les vieilles boîtes de vinyles, t'as souvent t'as un Art Tatum qui déborde, des Roll Gardner, t'as peut-être des Coltrane. C'est quelque chose qui est assez t'as un accès à cette culture quand même à travers les vinyles. Et moi je collectionnais les vinyles à un moment parce que du coup je m'intéressais au hip-hop. Et donc là, je vais en venir à un fait, c'est que dans le hip-hop, moi, je cherchais tout le temps les samples.
Eh oui.
Donc ça se corrèle avec justement tout ce que je t'ai dit sur le jazz fusion, etc. Et ça se corrèle où j'arrive sur un site, je cherche My Name Is de Eminem à l'époque, parce que je disais, ah, j'aime bien l'harmonie, il y a un truc.
La B-Cypher, là.
Tu vois, ouais. Il y a des affinités sonores aussi, où à l'époque, j'avais pas forcément compris d'où je tenais ça. Et en remontant le fil, tu te rends compte qu'il y a des trucs communs, tu vois. Par exemple, Tout n'est pas si facile de NTM. Mmh. D'ailleurs, mets-le vite fait là.
Ouais, celui-là, bien sûr.
En gros, si j'ai vu que c'était. J'ai oublié qui est la femme qui a chanté sur l'original d'ailleurs. Alors, attends, est-ce qu'on... Mais en gros, après une recherche Discog il y a quelques années, je me suis rendu compte que c'est Roy Ayer qui avait produit le truc.
Ah, qui a produit le sample original, tu dis?
Et donc en fait, de fil en aiguille, je me dis, tiens, c'est marrant, ma sensibilité m'a amené sur un truc où en fait j'ai, ouais, sans le savoir, vraiment identifié qu'il y avait ce truc.
Et c'est pour ça que moi, tu vois,
au niveau des classifications, je suis pas tout le temps dans ces classifications, parce qu'en fait, quand tu vas à la source des choses, tu te rends compte que tout est lié, mais vraiment très 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 lié, tu vois.
Allez, Tout n'est pas si facile, Supreme NTM.
T'as ce truc un peu des accords.
Quel dommage qu'il rappe dessus. Quel dommage.
Quoi, tu dis quel dommage qu'il y ait Coolchain dessus, c'est ce que t'as envie de dire?
Concert.
Mec, moi je me prenais ça à l'époque, hein. Tu sais, j'en étais là avec mon pote, on graffait sur la petite ceinture, on n'en pouvait plus, tu sais, on était là. Ouf. C'est limite si j'allais pas me mettre à breaker un moment. Mais bref...
Il te rappelle le morceau original juste de Roy Ayers, ce que c'est, qui est sampler?
Ethel Betty, It's Your Love, mais je suis pas sûr que tu le trouves sur Spotify ou peut-être sur YouTube, tu l'auras.
C'est pas du Roy Ayers alors?
Si, mais ça a été produit par Roy Ayers. Et moi, j'ai appris, en fait, j'avais identifié le sample pendant toute une époque, et en revenant dessus, en cherchant du coup à acheter l'original sur Discog.
En regardant les crédits.
En regardant les crédits, j'ai dit, attends, Roy Ayers en fait? Donc je connais pas l'histoire derrière le truc, hein, mais.
C'est bien sur Spotify. S.O. Betty, It's Your Love.
Ça sonne Roy Ayers de ouf en vrai.
Ça a ce petit côté un peu sirupeux et doux auquel Daz est bien sensible.
Ah bah moi, de toute façon.
Où sont les violons? Sortez-les.
Ah non, mais voilà, c'est. Ouais, de toute façon.
Tu vois, moi je trouve ça, c'est un côté qui peut être sirupeux, identifié comme sirupeux ici, et moi je trouve ça limite plutôt street.
Ah ouais?
Tu vois, comme il y a pas mal de trucs. Moi, ça m'arrive des fois de faire écouter des trucs à des gens et tout de suite ils ont le truc d'ascenseur, de jazz d'ascenseur un peu. Ouais. Et moi derrière, je me prends pas du tout les mêmes images. Je suis là, je vois un truc. Tu sais, c'est comme là, une fois dans un cours de boxe, j'ai ramené du Marvin Gaye, tu vois. Il me disait, putain mec, c'est quoi ton plan? T'es en mode sexy un peu et tout, alors que pas du tout. Tu vois la musique.
Parce que toi, en fait, tu l'associes vu que tu l'as identifié via le morceau de NTM. Peut-être que tu associes aussi le côté sample plutôt pas. Street.
Là, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre, je trouve. En fait, c'est la voix surtout qui m'évoque.
Ça ressemble à Diana Ross.
Allez, ouais. Écoute, voilà. Je suis très sucré.
Voilà. Après, autant dire, tu vois, la batterie derrière, etc., est déjà un peu plus. Pas brute, mais tu vois.
Limite funk.
Mais par contre, ouais,
non, les leads. Ils sont
Ah, il y a un débat là.
En fait, pour moi,
ce genre de voix, j'ai un peu de mal, j'avoue.
Ah ouais.
Enfin, en fait, c'est pas pas le grain, pas le timbre, c'est la manière que très très très.
Bah, très Diana Ross, ouais.
Ouais, ça fait traîner la note, etc.
Ouais. Moi, j'ai une tolérance assez élevée pour le fromage.
Pour le cheesy,
ça me dérange pas, franchement.
Après, je peux aimer les trucs cheesy aussi. Hein,
Je sais pas comment expliquer parce que j'ai un attrait pour ce genre de son qui va au-delà de ces choses-là. Moi, il y a un truc batterie basse qui me fait vraiment kiffer sur les vieux disques. Et quand je te parlais d'affinité tout à l'heure par rapport à justement des choses que j'avais pas identifiées à l'époque que j'identifie après, ça me l'a aussi fait avec des masterings. Okay. Notamment avec certains masterings de Bob Power, qui avait fait, je crois, Alliance Ethnique aussi, mais aussi Michel NDG Ocello.
Bah ouais.
Et attends, il y avait qui d'autre aussi? Ah, j'arrive plus à me souvenir, mais ça me reviendra. Mais, ah oui, c'est ça, les Mizell Brothers. Okay. Qui ont fait, en gros, pas mal de Blue Note. Mmh. Et genre, pas mal de Blue Note que je kiffais, en fait. Okay. À savoir, tu vois, par exemple, tu parles du label. Ouais, le label Blue Note. De jazz, justement.
Non, on ne prononce pas ce nom dans cette émission.
Et tu vois, ils avaient fait Think Twice de Donald Byrd, que justement Dilla avait repris. Ils ont fait plein de titres. Ils ont fait Bobby Humphrey aussi.
Ah putain, j'adore Bobby Humphrey.
Tu vois, ce son My Little Girl.
Alors, c'est pas celui que j'écoute le plus, mais...
Celui-là, il a un truc, mec, que vraiment... je comprenais pas ce qui m'arrivait.
Je le mets en fond un peu.
Pour ouais, vas-y. Quoi, bah, c'est le lead. Moi, c'est le lead qui me rend fou là-dessus.
Ouais. Oui, bah si, oui. Ok.
Incroyable, tellement gangster.
Bah ouais, c'est ça. Lui, il va te dire que c'est sirupeux. Alors que ça, c'est 100%
là, non, West Side. Pas pour le moment. J'attends la voix. Non, attends.
C'est là, j'ai envie d'être à New York.
Non, là, t'as LA, là.
Je suis dans la street.
Tu vois, c'est pas sirupeux. Je vais te prendre un autre exemple. Tu vois, du mini Riperton par exemple, je trouve pas que ce soit sirupeux.
Bah putain, alors que.
Non, mais je vois. Non, mais il y a le côté sensuel, etc. Mais
après, il y a 18 octaves.
Bon, d'une part, déjà, absolument, elle est absolument incroyable en chanteuse pure. Non, c'est. Je crois qu'en fait, c'est un aspect un peu négatif pour moi, sirupeux, effectivement. Et je crois qu'en fait, c'est quand c'est. C'est pas quand c'est beau et mélodieux et que ça cherche à être joli, tu vois, et que ça on abuse un peu sur le joli. C'est vraiment ce côté, je sais pas. Je sais pas, c'est ultra subjectif en fait le truc, je sais même pas comment.
Bah ouais, moi par exemple des morceaux de soul que je kiffe, ouais. Je les ai tous foutus dans une playlist qui s'appelle Passage en force parce qu'il y a que des forceurs. Le mec qui passe 5 minutes à essayer d'engrainer la meuf pour tu vois, genre Teddy Pendergrass et tous ces gars-là, tu vois. Et en fait
ouais, totalement.
En fait, je suis complètement croque de la musique, tu vois, mais ça m'empêche pas quand même d'avoir suffisamment de recul pour me rendre compte que c'est des trucs de tonton forceur de ouf, tu vois, et que ces mecs-là pourraient pas avoir de carrière aujourd'hui, ils seraient cancel instantanément, tu vois. Mais ça fait partie du délire. Pour moi, c'est pas négatif, tu sais, d'avoir des trucs très cheesy, très...
Après, le côté sensuel de la musique, non, c'est évidemment que c'est pas négatif. Cheesy, c'est encore autre chose.
D'Angelo Voulou.
Oh bah,
oui, mais là, je trouve pas que ce soit sirupeux, tu vois.
Non, c'est pas sirupeux, c'est, on dirait un mec.
Bah, putain.
On dirait le côté un peu dark de l'église.
Ouais.
Parce qu'il y a un truc. Il y a un truc. Non, mais sincèrement, il a un truc que je kiffe, c'est que tu sens l'influence de l'église, et il y a un truc où, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc que je perçois dans l'église un peu évangéliste.
Ouais, genre, tout le monde est moite et il fait chaud. Ouais.
Non, tout le monde est bien et tout est gentil et on fait que le bien, tu vois, et lui, il y a une forme de.
Bah, vaudou, quoi.
Il y a une forme de.
Bah, déjà, il a Hector Spoil, déjà, dans l'église.
Ouais. Il y a une forme d'expression de la darkness. À travers une musique qui a des codes empruntés à certains trucs de
oui, c'est à la limite
exorcisme,
tu vois, c'est ouais. Genre les gens sont possédés.
On fait un petit saut juste dans le temps pour venir à ton dernier album et on parlera d'autres sujets, notamment tes featuring dans le rap, enfin des collabs dans le rap plus exactement.
Yes.
Et notamment du fait de placer des prods et tout, je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais avant, passons, voilà, pour terminer un peu ce côté ta musique plus personnelle, entre guillemets, Situations, qui est sorti en octobre dernier, qui est assez récent.
Yes.
Et je trouve qu'il illustre bien cette envie de... Comment t'arrives à faire passer collage, mais tu vois, ces trucs de toutes ces inspirations et mettre un peu tout ça ensemble.
Ouais, ouais.
Et c'est un truc que t'as... Il t'a fallu du temps pour arriver à digérer un peu tous les trucs dont on a parlé depuis tout à l'heure. Ok, faire un album très house avec quelques petites inspirations, mais ça reste quand même de la pure house.
Ouais, ouais.
C'est pas la même démarche, tu vois, que se dire, vas-y, à un moment, il faut que je me crée ma propre identité et je vais un peu faire ma sauce, ma tambouille. C'est arrivé facilement, ça, ou...
C'est arrivé naturellement. Par contre, vraiment de se mettre dans la peau de l'artiste, c'est pas que c'est compliqué, mais qu'est-ce que t'as envie de dire quand tu peux tout vous dire, tu vois? D'ancrer, de contextualiser, en fait, c'était pas forcément... en tout cas, c'était stimulant. Mais moi, je marche beaucoup par flash, j'aime bien, tu vois. C'est-à-dire, hop, j'ai un flash, un peu une intention qui se dessine comme ça, tu vois.
Ces flashs, ils viennent à force de faire, ou c'est à tout moment, t'es sous ta douche,
c'est un mélange des deux.
Ouais. Parce qu'il y a le côté aussi discipline, quand même. Vas-y, tous les jours, je me mets devant le matos et j'essaye un peu de produire, ou...
Non, justement, moi, c'est que j'étais très volant. C'est arrivé à des périodes de ma vie où j'étais assez occupé, en plus, pour plein de raisons diverses. Et moi, je suis très volant. Tu sais, là, en ce moment, j'ai un morceau qui est prêt, que je vais sortir bientôt. Et là, je le laisse reposer, quoi. J'ai besoin de... Moi, ce que je me crée, c'est j'essaie de me créer vraiment des perspectives pour arriver à être le plus lucide sur ce que je fais. Ou en tout cas, le plus distant par rapport à ce que je fais. Moi, c'est un truc que je conseille notamment pas mal en musique, c'est d'écouter parce que c'est valable au premier degré comme au 4000e degré, c'est-à-dire qu'en musique, moi, je conseille par exemple d'écouter la musique qu'on fait à divers endroits de sa pièce ou de l'appartement par exemple, pour justement se créer une perspective. Et je pense que cette création de perspective est vachement importante et stimulante dans le contexte de la création.
Du tout, parce que ça me fait penser à ce sujet. Ça t'arrive encore d'être dans l'excitation absolue sur le moment même, de réécouter le lendemain et de dire « Oh putain, en fait, c'est pas bien ».
C'est pas le lendemain, c'est souvent en essayant de mixer ses propres morceaux au bout de la V10. Et ça, c'est un truc que j'ai identifié récemment, mais ça m'arrive plus particulièrement avec des morceaux où je suis encore très, très dans la création sur l'ordi, au clic. C'est-à-dire que tout ce qui est plutôt jam... fait entre instrumentistes, je suis beaucoup moins lassé par ça. J'ai une capacité à réécouter ces trucs-là plus élevée par rapport à mes propres morceaux, justement. Et donc, ça vaut aussi pour les morceaux que j'ai créés, moi, à l'époque, où j'étais plus dans un truc, tu vois, de machine, parce que j'ai eu des périodes de ma vie où, justement, en retraçant un peu l'histoire du hip-hop, il y a un moment, j'ai voulu m'y foutre, et j'ai acheté la MPC 2000 XL... J'ai essayé de faire des morceaux sans ordi, je vais sur le vinyle, je prends le kick, je prends la snare, etc. Tu vois.
Ah ouais.
Ouais, en mode de A à Z, genre vas-y, là je fais un morceau et genre j'utilise pas du tout de trucs extérieurs, juste ma platine et ma MPC, tu vois.
Ok. Et aujourd'hui tu travailles plus du tout comme ça?
J'aimerais bien revenir un peu vers la MPC. Là,
un truc hybride? Non,
un truc hybride, ouais. Prendre le meilleur de deux mondes parce que.
Tu bosses beaucoup sur Ableton, on s'était croisé d'ailleurs dans le cadre d'un workshop où tu présentais ta façon de travailler, de composer sur Ableton. Mais ouais, tu as évolué sans cesse, ça?
Ouais, alors après, j'aime bien utiliser des machines externes, quoi. Ouais. J'aime beaucoup les vieilles machines, tout ce qui est entre années 60 et 80. Mmh. Je suis un grand fan.
Genre, synthétiseur, boîte à rythme, d'autres trucs aussi, des effets.
En ce moment, pas mal de Space Echo. Okay. Donc Space Echo, qui est un truc qui ressemble à une valise, qui est donc un écho à bande, où en fait, donc t'as des bandes, si tu veux, comme les bandes de la cassette, ça tourne dans un truc, et t'as des têtes de lecture, des têtes d'enregistrement, et donc c'est un écho. Et ça rajoute un grain. Moi, je suis fanatique du son de la bande, hein, c'est magnifique, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Donc ouais, c'est un truc que j'utilise pas mal, que mon frère avait acheté 30€ à une brocante et ça vaut pas du tout ce prix-là. Le mec était en mode c'est un écho à bande, ça traîne dans mon garage, c'est un peu basique, tu vois. Et au final je l'utilise encore aujourd'hui et c'est vraiment incroyable.
Est-ce que tu penses que c'est justement le fait d'avoir plusieurs cultures musicales, mais plusieurs envies, d'être à la fois un mec du live, du jam, mais en même temps de la musique électronique, et donc plus de la composition sur son séquenceur, sur un ordinateur, etc. Enfin,
et en même temps des anciennes machines. C'est vrai que t'es au carrefour de plein de trucs, en fait.
C'est les musiques que t'aimes qui t'amènent à vouloir avoir une approche hybride quand tu composes, quand t'enregistres, Ou c'est plutôt aussi le pur truc de le côté ludique des machines, j'en sais rien. C'est pas seulement une question de son, mais c'est aussi une question de workflow pour toi.
Oh, c'est les deux. Hein. Ouais. C'est les deux. Effectivement, il y a des machines qui ont vraiment une âme. Et puis il y a un truc de son, purement de son. Hein. La MPC 2000XL, moi, j'arrive pas à faire des grooves comme ça sur d'autres machines. Il y a un truc où, je sais pas, les pads et tout, ça a vraiment une résonance particulière. Pareil avec les synthétiseurs. Hein. T'as des vieux trucs, quand tu les touches, c'est. Il y a une bestiole dedans, hein. C'est de l'électricité qui passe et t'as l'impression qu'il y a un petit être qui pédale à l'intérieur pour faire le son, quoi.
Alors que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Daz aussi. T'as déjà eu l'occasion de mettre la main sur des vieilles machines ou, parce que quand on prend une vieille machine et qu'honnêtement, qui a été émulée, par exemple, il existe une version, un plugin.
Le plugin, il est
version numérique.
Le plugin, il est parfait, alors que la vraie machine.
Non, c'est surtout qu'objectivement, quand tu vas les foutre dans un mix, les deux, le résultat final pour l'auditeur, il ne va pas se passer grand-chose de différent. Après, ce qui peut jouer, par contre, là où je l'entends toujours, c'est de dire l'expérience du mec qui va jouer ou composer avec ses machines, ce qu'elles vont susciter chez lui sur le moment, le rapport au toucher, à éventuellement des fantasmes. Ce qu'il a envie,
mais même le son, tu as des micro-variations parce que ta machine, elle vit, en fait.
Si, moi, ça revient au sujet de tout à l'heure sur le mastering, les basses, etc. C'est des perceptions qui ne sont pas audibles par les gens, mais qui sont de l'ordre de la sensation. Il faut voir comment tu le mixes.
Faut avoir le système son pour le reproduire, la sensation.
Oui,
aussi,
mais le truc, c'est que tu vas en concert, t'as un gars qui joue des 808 en VST versus un gars sur un Moog. Je te jure que c'est pas la même chose. Hein.
Alors pour
aller, c'est vraiment un truc de sensation, en fait.
Pour du live, avec le système son qui permet d'atteindre certaines fréquences, etc. Parce que dans la plupart des cas, quand même, si c'est pas audible par l'homme, ça n'a pas d'intérêt. Après, si t'as le système son qui te permet effectivement de.
Oui, après, les gens, ils vont l'écouter dans des AirPods.
Je te jure que même sur un téléphone, pardon de te couper, sur un téléphone, ça fait la diff aussi. Même tu mets un Moog. Je t'assure. Et c'est ça qui va faire sonner certains trucs, genre vraiment CD. Tu vois, par exemple, le dernier album de Michel and DJ Ocello, justement, ça sonne Scud. Ça sonne vraiment Scud. Et il y a ce truc-là, je te jure, mec, avec les machines où vraiment il y a des trucs.
Tu penses pas qu'on surestime quand même parfois un peu le matériel?
Moi, je fais confiance à mes oreilles. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'aveugle de déceler des trucs. Je fais confiance à mes oreilles, j'entends si c'est un MP3, un FLAC. Je peux entendre si c'est un Moog ou le plugin, tu vois. Et je te jure que les plugins, ils ont des choses très bien. Les analogues, ils ont des choses très bien. Et c'est même pas une question de mieux ou de moins bien. En fait, c'est une question de comment tu vas l'utiliser. Il y a même des cadres dans lesquels je préfère utiliser un VST pour certains trucs. Tu vois, par exemple, un truc où les VST, je trouve qu'ils sont pas super forts, c'est par exemple les attaques. Attack, sustain, decay, release, pas ouf sur les plugins, alors que en synthé analo, c'est avoir des bonnes enveloppes, c'est un peu le cœur de la bataille, tu vois. Par exemple, Moog, ils sont super forts pour ça et ça fait une grosse diff, en fait. Ça veut dire que, tu vois, moi, par exemple, j'ai un petit synthé, le Defam, c'est une boîte à rythme. Donc, une enveloppe,
chez Moog aussi, ouais.
Ça va définir l'attaque si ton son fait plus ou moins pa, tu vois, par exemple. Et en gros, ils ont des attaques là-dessus et tu te rends compte qu'en fait, à partir d'un signal basique et d'une attaque assez folle, tu peux faire un son vraiment super stylé. Et c'est là où je dis que c'est deux mondes qui sont pas à mettre en opposition. Et par contre, effectivement, dans certains matos, il y a un truc qualitatif. Et aussi, il faut voir aussi ton plugin dans quoi il finit. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont utiliser des plugins qui vont finalement les faire passer dans des machines analogiques. Donc là, on est à la croisée des mondes, comme le truc dont on parlait tout à l'heure, où en fait tout se joint, tu vois. Et c'est pour moi comme dans la musique, en fait, il y a rien à mettre en opposition. Au contraire, tout va ensemble. Ça veut dire qu'à tout moment, mon plugin de Moog, ça se trouve, je vais le faire passer dans un vrai filtre de Moog pour aller retrouver un peu une certaine qualité de filtrage ou pas, tu vois. Et ouais, ça fait vraiment une différence, surtout sur les distorsions aussi. T'as des super distorsions maintenant en numérique, mais t'as des distorsions en pédale qui sont compliquées à reprendre en numérique, en fait. T'es juste pas sur la même chose, quoi. T'as des 0 et des 1 d'un côté, et c'est une question de distorsion harmonique, un peu.
Ouais, après, moi je pense, en tout cas, j'ai confiance en tes oreilles, mais je pense qu'on surestime parfois le... Et tu vois, tu parlais par exemple de variations, du fait que ça soit de l'analogique. En fait, en plugin, on peut l'émuler aussi, ces variations, etc. Ils se basent souvent d'ailleurs sur les vraies machines initiales. Ils sont capables de reproduire, y compris l'aspect aléatoire qui peut exister, etc.
Oui, mais même,
l'aléatoire n'existe pas, tu vois. Donc l'aspect aléatoire, ça sera quand même un...
Oui, mais tu peux le simuler en réalité.
Ça sera un pattern algorithmique, tu vois.
Ouais, mais
tu peux simuler l'incertitude de certains trucs et des fois ça va plus être des types de coloration, c'est-à-dire que sur certaines tables, les SSL 4000 et tout, c'est plus des questions d'électronique limite là en fait, c'est des comportements électriques en fait.
Ouais, c'est ça.
Que tu simules, il me semble.
Mais justement la simulation informatique passe par des algos, passe par des patterns, passe par des...
Et après, le son, il sort de tes enceintes, il passe dans un convertisseur ou un truc, et en fait, tu passes d'une transcription d'un signal numérique à un truc analogique. Donc, en soi, entre ton synthé analogique et ton synthé numérique, tu finis par avoir le même résultat, un truc physique, en fait. Mmh. Et donc, le changement, il se situe plus dans la direction que tu prends. Bon, bah, par exemple, si t'es compositeur, là où t'as envie d'aller. Ce qui est sûr, en tout cas pour moi, c'est que pour rentrer précisément dans le sujet, dans les synthés polyphoniques, j'ai une tendance à pas mal aimer certains trucs analogiques. Et d'ailleurs, c'est un peu ma recherche en ce moment. J'ai du mal à trouver un bon poly en plug et j'ai envie de...
Vous précisez que là on est dans les discussions de Geekos. Hein.
Voilà, c'est Geekos, désolé.
Là, précisons pour les gens, les différents. Bah, tu peux peut-être nous en parler entre monophonique, polyphonique.
Exactement,
on peut
je
faire
peux
plusieurs...
y venir. Ouais.
Vas-y.
En fait, un synthé monophonique, t'appuies sur une note à la fois. Un synthé polyphonique, tu poses tous tes doigts et tu as un accord.
Toutes les notes résonnent en même temps.
Toutes les notes résonnent en même temps. Après, t'as des distinctions, t'as paraphonique, polyphonique, etc. T'as ce qu'on appelle les faux polyphoniques. Mais... basiquement, le principe, c'est ça. Et donc, t'as des synthés un peu emblématiques qui, finalement, au-delà d'être de qualité, ont tellement été utilisés sur des disques que dès que tu les utilises, t'as directement cette empreinte.
Mais c'est uniquement parce que on les a entendus, en fait.
Ouais.
Ah bah, ouais. C'est pour ça que je pense que ce que...
Genre quoi, les prophètes, les machins comme ça.
Ouais. Prophètes, Prophètes, Mélotron, Moog, Juno 106, qui a été sur tous les disques de la Terre entière. Donc tout ça, hein, c'est les marques de synthé, Roland, Korg, etc., etc.
On pourrait même rajouter le DX7 qui était beaucoup revenu en...
Ah, mais
je pense qu'on en revient un peu.
J'ai vu un meme il y a pas longtemps sur des gars qui disaient qu'ils avaient trouvé genre le son de la sonnerie de Taco Bell, tu vois, des Américains, le fast-food en Amérique, là. Et tu sais, tu les vois, ils sont en studio, ils appuient sur la touche, ils sont tous... Waouh! Parce qu'en fait, c'est le son de Taco Bell pour te dire à quel point, en fait, c'est des trucs qui sont genre dans l'imaginaire,
ouais, en fait, c'est
dans la conscience collective.
Dans l'inconscient,
quoi.
Ouais.
Tu le sais même pas, mais tu sais, c'est comme le micro-Korg, qui est pas un synthé fou. Hein.
Mais il a inspiré tellement. Enfin, à un moment, il était tellement chez tout le monde, le micro-Korg.
Tu vois. Et il y a ça, il y a le Triton aussi, que Pharrell a tué dans tous les sens.
Je pense au Triton aussi, ouais.
Un synthétiseur qui s'appelle Roland JV1080. Donc, pour ceux qui connaissent pas, à l'époque, t'avais des synthés avec les touches de piano, mais t'as également des synthés qui sont présents sous la forme de rack. Et donc, en gros, tu le pilotes avec des machines à côté, quoi.
Tu connectes d'autres claviers pour pouvoir le jouer, mais ouais, très
ouais,
bien.
Ouais, ouais. Et ce synthé-là, d'ailleurs, bon, pour ça, c'est plus Geekos, hein, on parlait, mais il y a des cartes d'expansion pour les sons. C'est le gars de Spectrasonics qui a fait les banques de sons, donc c'est celui qui a fait Omnisphere. Donc, c'était le son bien chimique. Et ça... t'as des presets où donc un preset c'est un son qui est déjà préchargé dans la machine, donc t'as pas besoin de tout triturer, c'est un son que tu peux déjà utiliser. Et donc t'as des presets où t'appuies sur une touche et ça fait un son organique avec des modulations. Donc j'appuie sur une touche et ça fait, tu vois. Il y a des sons carrément, c'est qui veut gagner des millions, Ushuaïa, c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est le multi-tool de l'époque en fait, c'est le couteau suisse de l'époque. Donc t'as des sons emblématiques comme ça où je te fais une touche, tu dis ah ouais, trop ouf. Un très emblématique, c'est sur Art of Noise. Mm-hmm.
Moments in Love, ouais.
Le son du CMI Fairlight, qui est donc un peu un des premiers synthétiseurs musique assistée par ordinateur. Ouais. J'invite les auditeurs du podcast à aller checker une vidéo s'ils la retrouvent de Herbie Hancock avec Quincy Jones en studio. Ou en gros, il me semble que c'est Quincy. Ouais, donc ils sont en studio et du coup, t'as Quincy qui montre à Herbie, regarde le Fairlight, la technologie, c'est incroyable. Et tu vois, Herbie à l'époque est super, et d'ailleurs encore aujourd'hui, super friand de technologie. Lui, c'est le gars qui enregistre tout le temps. Tu vois. Donc ils sont là, ils rigolent, ils sont avec leur coupe de champagne, c'est assez mythique.
Je l'ai déjà dit dans cette émission, mais je l'ai vu, c'était l'été dernier, non, c'était un peu, oui, un an, je sais plus, je suis un peu perdu. Je l'ai vu à Paris dans le cadre du festival La Défense, Herbie Hancock. Je sais pas, il doit avoir pas loin de 90 piges aujourd'hui.
Ouais.
Et le mec tourne encore. Le jour d'avant, il était dans une autre date, dans un autre pays, etc. Quelle passion, quelle curiosité, quelle envie surtout. Putain, faut avoir envie encore de tourner dans le monde entier à cet âge-là.
C'est le bouddhisme, ça lui réussit, je crois. Bah non, mais c'est Wayne Shorter qui l'a introduit à ça, je crois. Parce qu'il y a une sale période de drogue et tout. À l'époque de Headhunters et tout, il prenait du crack et tout. Et puis en fait. Et d'ailleurs, peut-être que tu comprends ça, parce que je sais pas si c'est... Mais en gros, Wayne Shorter, je crois, l'a ouvert une forme de spiritualité, justement. Okay. Et il est vachement regardant sur... Tu vois, avant les concerts, je crois qu'il fait tout un tas de trucs. D'ailleurs, c'est Alice Coltrane qui, avant les concerts, faisait des méditations pendant 2-3 heures avant de jouer des concerts.
C'est des trucs qui peuvent t'inspirer, toi. C'est des trucs
à fond. Ouais. À fond. Moi,
t'as envie même de d'avoir ce côté.
Il faut prendre du crack d'abord.
Peut-être l'a-t-il déjà fait. Non, il aime beaucoup le 19e. Il traîne vers Stalingrad. Ah, normalement. Pas, tu vois, ouais. Non, mais genre limite tu pourrais faire des tournées comme ça ou avec une dimension spirituelle.
Bah la musique répétitive m'intéresse. Et je pense que
France, ouais.
pour jouer certaines choses, il faut préparer son corps quand même. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi Alice Coltrane elle se préparait physiquement pour des fois pour devoir jouer, tu vois, des trucs des concerts de 4-5 heures où faut gérer en fait. Ça m'étonne même pas. À la fin, t'es comme un sportif en fait. Faut se mettre en condition, tu vois.
On s'écoute quelques extraits, un ou deux. En fait, je veux bien en choisir un, moi, sur Situations, qui est d'ailleurs le morceau éponyme, Situations, que je trouve, je l'aime beaucoup, ce morceau.
Ok.
Je trouve vraiment très.
Pourquoi il y a des titres en capital et d'autres en minuscule?
Ah, c'est vrai.
Ça, c'est le.
C'est l'erreur.
Quand même, j'ai pas fait exprès. Non, je vais. J'avais envie.
Ok.
Ouais, on s'écoute Situations, après, t'en choisis un, toi, que t'aimes particulièrement. Je sais pas.
Vas-y.
C'est quoi ton rapport à Situations? T'es content de ce morceau ou pas?
Ça va.
Ça va, sans plus.
En fait, entre parenthèses, juste avant de commencer, cet album, c'était vraiment pour moi un premier essai de me lancer dans le bain, qui pour moi sera genre le prédécesseur de plein d'autres choses. Mais en fait, le fait de formaliser quelque chose, de formaliser un projet, c'est un craft en soi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé avant. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien d'être un artiste, de faire des concerts, de savoir jouer, de savoir créer un morceau, c'est une chose. Et moi, j'ai eu toute cette période d'apprentissage, finalement, je trouve, hein, jusqu'à Situations, même si elle a duré longtemps, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte que de formaliser un projet, en fait, c'était un art en soi. Et pour moi, Situations, ça a été vraiment le cahier de brouillon de « Ok, je formalise un projet ».
Et tu parles d'une DA à l'échelle d'un album ou de toi en tant qu'artiste même?
Non, là, même en tant qu'album, dans le sens même, comment les tracks se suivent, est-ce que toi, tu y trouves une cohésion? Bon, peu importe si les gens la voient, mais comment tu te sens vis-à-vis de ça, etc. Ouais.
Okay. Allez, on s'écoute Situations, issu de Situations, sorti en octobre dernier. Non,
Situations!
Ça dure 5 minutes, ça évolue ensuite.
Yes.
Ça vaut le coup d'écouter le morceau en entier, c'est très très bien.
Merci.
Oui, c'est toi qui chantes là, non?
Ouais. Big, ce morceau-là, grosse influence. Je pense qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup Party Next Door et Nipsey Hussle.
Ouais.
Ouais, à fond.
Ok.
À fond.
Ça me faisait penser un peu à Loyalty de Kendrick Lamar.
Ah ouais, ok, je te capte. Ouais, je l'ai beaucoup écouté aussi celui-là. Ouais, t'es à Toronto, tout est un peu déshumanisé.
Ouais.
Il y a un truc, ouais, j'ai pas mal traîné à Toronto.
Bah, il peut même y avoir un délire un peu, tu sais, OVO Sound, Drake,
ouais,
tu
ouais,
vois,
ouais,
un peu
ouais.
De délire.
Mais
quoi.
Party Next Door, c'est OVO, ouais. Hein, je crois, de toute façon. Okay. Ouais, notamment un morceau de Party Next Door, West Side, West District, je crois. Et Party Next Door, il est de Toronto, justement.
C'est, ouais, ça explique pourquoi j'ai kiffé ce morceau. Moi, j'avoue que c'est ma vibe de ouf.
Ouais, je te capte. Ouais, je te capte. Et derrière, avec des relents d'ambiance un peu. Tu vois,
bah, en fait, c'est pour ça que je suis frustré là, parce que le morceau pourrait commencer uniquement comme un truc un peu R&B moderne, un peu darkos, tu vois, etc. Ouais. Il y a ensuite le côté déstructuré quand même un peu avec, tu vois, les trucs qui pop à tout moment, etc. Ouais. Qui apporte quand même un peu plus de richesse. Mais ensuite, dans le développement du morceau, c'est encore plus intéressant. Bref. Est-ce que toi, il y a un morceau que t'aimes bien sur cet album, en particulier, un vraiment qui te tient à cœur?
Je crois que c'est Peacefully que j'aime beaucoup, qui est plus à l'image de ce que j'ai envie de faire actuellement.
Ok.
Ouais. Yes. De toute façon, ça change pas vraiment, sauf la deuxième partie.
J'invite nos auditeurs, je t'invite Daz aussi si t'as pas encore eu l'occasion de le faire, à vraiment se faire tout l'album en entier. C'est un petit voyage, c'est cool.
Ouais, de ouf.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser, je sais pas si tu vas aimer cette ref ou pas, notamment c'est aussi le fait que sur Guilt on entend vraiment de la guitare acoustique au début. Ça m'a fait penser à ça. C'est j'ai pensé à ces albums, faut pas le prendre mal, un peu mineur de John Frusciante.
Ouais, ok. Ah, trop stylé.
Tu vois, c'est
bien sûr,
ces albums.
Je le prends pas du tout mal, au contraire.
Alors, je dis mineur parce que c'est pas ces gros tubes avec les Red Hot, etc.
C'est personnel, c'est très personnel.
Très personnel. Ouais. D'ailleurs, dans des moments de vie où il était pas bien.
Ouais.
Et il a énormément produit des morceaux bizarres, mais qui ont tous un charme fou. Enfin, souvent un charme fou.
C'est Dean Blunt qui a samplé un de ces trucs là. Justement, okay. Mon pote Lubensky me faisait écouter un truc où il disait, ah, ce morceau il est trop chaud, et en cherchant, c'était un sample de guitare de John Frusciante qui est incroyable sur justement une de ces tapes là.
Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cet aspect de la carrière de John Frusciante.
Ah super.
Il y a à boire et à manger dedans, c'est très, il y a des trucs bizarres, etc., mais aussi plein de trucs super touchants.
Ah, c'est chambé, c'est chambé. C'est
bah, on le salue du coup.
On le salue.
Faut chanter.
Bah ouais. Ouais, on le salue.
Alors, John,
big up.
Viens nous voir.
Et bon, ski aussi, qu'on salue. Allez, hop.
John, come over here. Ouais, gros truc. Mais pas évident de se replonger dans mon truc là. Tu vois, les oiseaux là.
Dur.
Les oiseaux de la fin de ce track là, mec, c'est super personnel. Hein. C'est un truc autour du décès et tout. C'est des oiseaux qui ont été pris avec ma meuf le soir de. Tu vois, il y a mon père qui est parti il y a pas longtemps et tout. C'est le soir où il est parti et tout. On a fait une prise à 6 heures du mat après qu'il soit parti. On a pris avec deux téléphones les oiseaux du matin de la rue. Ah mec, j'ai envoyé. Ça a été un exutoire, cet album. C'est pour ça que là, j'ai envie de faire des trucs un peu plus joyeux.
Très bien, très bien.
Tu vois. Mais c'était un exercice vachement intéressant. Il y a des trucs qui m'ont déplu, d'autres choses qui m'ont fait kiffer. J'apprends tous les jours, tu vois, notamment dans le mixage de ma voix, etc. J'ai envie d'essayer encore plein d'autres choses.
Oui, c'est un nouvel outil pour toi d'utiliser plus ta voix.
Ouais.
Je me rappelle là dans le truc, le work avec Ableton.
Workshop.
Le workshop, pardon. Ouais. Je me rappelle jamais ce terme. J'étais très étonné de voir comment tu triturais ta voix, comment tu l'utilisais beaucoup. Tu chantes, parce que j'imagine que t'es pas non plus un chanteur professionnel à la base. Donc tu l'enregistres puis tu l'accélères ou tu la ralentis à l'inverse pour pouvoir faire des vibes un peu plus facilement, des choses comme ça.
Ouais.
Parce que t'as pas la maîtrise technique de base.
Bah oui.
Mais en le faisant très lentement puis après en l'accélérant, ça t'a une belle vibe, tu vois. Plein de trucs comme ça. C'est un nouvel outil pour toi, la voix.
En fait, ça fait un moment, je pense, que je le fais, mais surtout. En fait, sur Situations, c'est parti un peu de la frustration de pas trouver des gens pour le faire de la manière dont je voulais.
Mais t'en as cherché, du coup?
Je pense pas extrêmement proactivement.
C'est que le nombre de mecs qui big up, il y a bien quelqu'un quand même qui pourrait chanter.
En fait, pas proactivement, mais en fait, le truc, c'est qu'à la fin, je me suis rendu compte que finalement, ce que je cherchais, c'était pas forcément avoir The Chanteur. Mm. C'était plus, en fait, de retranscrire un truc qui, en fait, était totalement personnel.
Ouais, c'est de l'émotion.
Donc, j'aurais pu aller le chercher où je voulais, mais je l'aurais jamais trouvé que si je ne l'avais fait que moi-même, tu vois. Mais à l'avenir, je vais me réenclencher un peu dans des collabs justement avec ma musique, avec des chanteurs, je pense.
Comment toi, Daz, comment t'as découvert Monomyth? Est-ce que c'était, j'imagine, par une collab rap?
Ouais, bah c'était Jazzy Baz, en fait.
Avec Baz, ouais.
Ouais.
Et ben il faut qu'on parle de ça, faut se fasse une petite partie.
Allez.
Sur le côté rap.
Jazzy Baz et ton cousin du coup qui m'a dit.
De quoi?
C'est ton cousin qui m'a plug avec toi.
Qui?
Nico.
Nicolas?
Ouais.
Incroyable. Ah oui. Ok, ça y est, je vois le plug.
Et à la base, il me dit, ouais, tu fais une émission musicale et, j'ai mon cousin, il fait de la musique, tu vois. Je fais, bah, vas-y, balance son nom, tu vois.
Incroyable.
Il me dit, ouais, il s'appelle Monomyth. Je fais, mais c'est ton cousin.
Incroyable.
Bien sûr, je connais, t'es ouf.
Ok, je commence à restituer un peu. Désolé, à l'époque, je devais être dans des trucs, hein.
Ouais, bah, c'est pour ça, on t'a chassé un petit peu, c'était compliqué. Donc, je dis, ok.
Ah non, là, les deux dernières années, frère.
Ouais, bon, j'avais dit à Salma, j'ai dit, on va le laisser tranquille et quand il sera dispo, il reviendra.
Ouais.
Cool. Bah, mais voilà, donc ouais, c'est un plug
d'un morceau.
Les chemins, peut-être.
Ou sur quel album? C'est quelle époque de Jazzy Baz?
C'est l'album vert là.
Nuit.
Ouais, c'est nuit. Ouais.
Ouais,
ouais. Ouais. Je me demande. Si... Ah non, c'est Pita où il y avait les chemins. Parce que moi, personnellement, moi, ça résonne avec le fait que ce que j'ai kiffé faire à l'époque, c'était les chemins avec Baz.
Ok.
Parce que c'était une vraie carte blanche à genre. Bon, déjà, il a kiffé l'instru et tout, mais ça a été une vraie carte blanche à ok, on fait du pura et. Je mets une influence qui est un peu... Bah limite, tu vois, l'intro, c'est en mode D'Angelo, tu vois.
Ok. Tu veux qu'on s'écoute ce morceau?
Vas-y. Ouais, regarde écoute l'intro, tu vas voir. Et totalement D'Angelo, moi, dans la
Donc
vibe.
Tu m'as dit c'est les chemins sur Pita, hein, c'est ça, hein?
Ouais, ouais, ouais.
Ah bah, tout de suite. Tout de suite.
Bah ouais.
Excepté les fins de semaine.
Mes doigts se Et après en mode SV, Slum Village.
Un mal aimé qui offre un bouquet d'anémones. Mon cœur avait de l'émoi, ma bouche n'avait pas les mots. J'étais heureux d'être moi quand elle venait me voir. Mais j'étais loin de l'exploit lors de notre première fois. On s'embrassait seul à seul sans que
ça. Ah, ça kiffe le vibrato, ça détune, hein.
Ouais, ouais, ouais. À fond. Bah, moi, c'était l'influence sur le Rhodes, là, précisément. C'est un morceau de Dilla qui s'appelle, sur Slum Village, qui s'appelle To You For You. Okay. Mets-le vite fait, là.
Ah, vas-y, on se fait plaisir.
Parce que ça résonne directement avec le morceau. Genre, D'Angelo pour le début, avec tous les trucs de Volu et tout. Et le Rhodes, particulièrement, donc le piano électrique qui est au milieu, là, particulièrement To You For You.
Allez, To You For You, Slum Village.
You look and stare, I say you took it there. What's up with you? Hey, what's up with you? What you gonna do?
Gonna do.
You want me, don't you?
You want me, don't you?
I know you do.
I know you.
Yeah, I want you too.
I want you too.
You wanna do me? I know it's me. Yeah, I know it's me. I hope it's me. See when you notice me.
Notice me.
I noticed you.
I noticed you.
You say what up?
You say what up?
What up with you?
What up with you?
The things you do and who you do it to. Watch what you do. I'm seeing you. I know what's good for you.
Good for you.
It's just 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 for you.
Alors du coup, comment? Donc là, on sait que toi, tu t'as cliqué avec Jazzy Baz parce que intérêt commun, groupe de potes, machin, etc.
19e.
Ouais, c'est juste ça.
C'est le 19e.
T'étais le mec du 19 qui fait du son et
En fait, c'est j'ai laissé l'instru des chemins justement au Grandeville Studio à l'époque de l'Albatros et c'est mon pote Martial qui l'a laissé, Lonely Band à cette époque-là, qui l'a laissé sur l'ordi, je crois, et en fait, il a kiffé, tu vois, et le plug s'est fait à partir de là en fait. D'accord. C'est vraiment mec, c'est vraiment une histoire de parisien du 19e arrondissement quoi. Parce que
c'était première collab rap, enfin premier mec du milieu avec qui tu commences à te plug ou il y avait déjà eu d'autres trucs avant?
Tu sais je pense qu'il y a dû y avoir des trucs avant un peu informels. C'est vrai que ça a été le on va dire le plus connu à l'époque notamment après ces Rap Contenders là.
Ouais.
Que avec qui j'ai collaboré à l'époque, ouais. Mais c'était très organique. Il n'y a pas eu de, tu vois, de choses formelles par mail, etc. Ou... Mmh. Et d'ailleurs, moi, la plupart des collaborations, c'est comme ça que je fonctionne. Hein.
Okay. Donc, tu places tes prods, c'est quoi? C'est les gens qui viennent
mais
te chercher?
Mais moi, je ne place pas, en fait. C'est ça le truc.
Merde, on voulait parler de
Non, mais c'est vachement intéressant parce que ça en fait partie du, ça fait partie du truc. T'as des gens pour qui c'est vraiment le travail. Je vois maintenant même des plus jeunes. Qui sont vraiment là-dedans, tu vois, où ils envoient des mails à foison, etc.
C'est vrai qu'on précise, pardon, placer une prod, c'est un terme qu'on utilise pour dire, en gros, moi je suis beatmaker, enfin je fais des instrus, et je vais essayer de me créer un réseau, démarcher, pour faire en sorte, pas forcément d'ailleurs avec l'artiste directement, mais ça peut les entourages, etc., que tel instru se retrouve sur tel album de tel rappeur qui le rappe dessus.
Ouais. T'as une démocratisation des moyens aujourd'hui pour faire ce genre de choses qui est genre tel que tu passes un peu dans un filet où il y a genre énormément de d'offres quoi, et encore plus maintenant. Et maintenant ça a changé le game encore, tu vois. Maintenant t'as même des gens qui font des loops. Avant c'était peut-être les instrus, etc. Maintenant t'as même des gens qui sont genre spécifiquement que dans la loop, qu'ils envoient aux beatmakers et les beatmakers l'envoient à des gens. Parce que tu sais, dans le rap il y a beaucoup cette histoire d'équipe en fait. C'est les gens qui gravitent autour de certaines structures. Si c'est pas des artistes qui sont en contrat artiste avec leur maison de disques, en vrai t'en as beaucoup, c'est des clics d'amis en fait, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Même t'en as certains, t'as envie de dire mais gros tu fais quoi ici en fait, c'est juste t'es le poteau de machin depuis 20 ans et puis
Daz a une théorie là-dessus.
La théorie de l'Oriens.
Mais il y a un peu de tout dans ce milieu et bon, t'as des taffeurs quand même, hein, faut pas déconner. Mais en fait, t'as plein de choses différentes. Effectivement, t'as plein de gens qui essaient de placer. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là. Je suis plus dans l'aventure humaine. Et même quand j'étais dans des résidences, etc., avec des rappeurs, j'ai du mal à pas faire moi. C'est-à-dire que je vais essayer d'apporter plus mon côté loops. Je fais des loops, comme t'as pu voir, notamment au workshop à FGO, où, en gros, moi, c'est plus... il faut qu'à la base ça rejoigne une pratique qui rejoint mon côté artistique de base. J'ai du mal à faire des trucs trop éloignés de ce que je fais, tu vois.
Très marqué par le sampling.
Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Et moi, un peu mon truc en France, ça a été d'essayer ma plus-value entre guillemets, c'est d'apporter ce côté un peu organique, tu vois. Je ne pourrais pas te faire de tube. Je pense que je fais tous les morceaux nichés de tes rappeurs préférés. Non, mais c'est un peu mon truc, tu vois. Je sais pas, le gars qui fait les hits, ça se trouve ça changera, hein, j'en sais rien, je vais pas ancrer les choses, mais donc ouais, moi je suis plutôt dans l'organique.
Après de la collab, enfin tu vois, on a cité Nekfeu. En plus, je crois que j'ai une bêtise ou t'as composé un truc sur Étoile Vagabonde?
Ouais, il y a eu 2-3 trucs, c'était plus informel, c'était de loin.
C'était déjà une grosse resta.
Ben c'est grâce à Diaby ça. C'est mon gars Diaby, on le salue.
Salut Diaby.
T'as faut te dire. Alors entre les refs musicales et les big up des potos.
Ah ouais là.
Dans l'industrie, il y a des gens, ils sont fous. Hein. Ils mettent pas ton nom, ils prennent tout l'argent et tout. Mais Diaby, c'est un bon.
Ok.
Diaby, c'est vraiment un bon et je le respecte et c'est un bon et merci Diaby, t'es un bon.
Tu t'as mis bien aussi avec ce mec.
Non, mais même pour avoir collaboré avec lui, c'est un plaisir de collaborer avec lui et en fait c'est quelqu'un de réglo en fait.
Mais alors en quoi il t'a aidé si c'est pour apparaître sur un album de Nekfeu, enfin raconte.
J'ai envoyé ses loops.
OK.
Et lui il aime bien faire participer les copains et il se trouve que il avait mes loops dans son dossier et c'est pour ça que moi ma collaboration avec Nekfeu à cette époque-là est plus informelle parce que justement c'est par biais indirect et c'est un peu genre 9 mois plus tard au fait t'es sur ça et tout, t'as les contrats qui arrivent, t'es en mode ah, ok waouh super. Donc ouais, ça a été plutôt comme fait comme ça, tu vois. De manière.
Donc toi, t'avais pas du tout prévu de bosser avec Nekfeu.
Ouais, non. Et avec Sneezy non plus, parce qu'avec Sneezy, il y a eu ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça faisait partie d'un pack de Loub que j'avais envoyé à Loub et Loubensky, donc qui est mon ami avec qui j'ai.
Salut.
Yes aussi, ouais, big up.
On a déjà salué trois fois, je crois, dans cette émission.
Et en gros, c'est marrant parce que lui dormait dans le studio quand j'ai fait la Loub qui a été placée justement sur le Sneezy là. Et bah j'aime bien mettre des points de SACEM à mon poteau qui est en train de dormir dans le studio. Je trouve ça lourd. On sait, on est là, on se met bien, on est ensemble, ça fait plaisir.
Et c'est surtout la clique, l'entourage, etc. Ou est-ce que t'as pris des trucs aussi en dehors un peu? Est-ce que tu dis que tu démarches pas, mais il y a un moment où tu vas vite te retrouver aussi à, enfin, tu croises pas tout le monde, forcément, tu vois. Est-ce qu'il y a pas des goals que tu peux te mettre à un moment en disant, putain, lui, je le trouve fort quand même, j'aimerais pourquoi pas un jour collaborer avec lui, je vais faire peut-être la démarche de lui dire, hey, j'existe, tu vois, je sais pas.
Ça, c'est un peu ce qui est en train de m'arriver actuellement, mais j'ai envie d'ouvrir un peu mes horizons avec des artistes, interprètes un peu à l'international. Donc j'ai vachement envie de faire ce que tu dis là, mais justement d'aller voir un peu dans autre chose que le rap. Okay. À savoir, par exemple, pas mal de choses en Angleterre. Hein. J'ai envie d'aller un peu plus vers la soul, etc. Tu vois, même ce qu'on a entendu là sur Situations, etc. J'ai envie de refaire des trucs comme ça, mais avec des professionals du chant et de l'écriture de chansons. Je pense que ça m'a un peu passé certains trucs de rap. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais,
le
ouais.
Rap même de manière générale, ça te...
Bah au final maintenant j'écoute plus trop de rap français.
Autant en tant que faiseur qu'auditeur.
Ouais je suis un peu là, tu me prends à un moment où je suis un peu en transition justement.
De toute façon tu te considères même pas beatmaker de
ouais base. non ouais. Moi ça me saoule ce truc beatmaker.
Ouais bah ouais.
Je sais pas,
c'est réducteur en fait.
Je suis instrumentiste quoi, ouais, je suis kiffeur quoi avant tout. Kiffeur de musique. Et
C'est vrai que le profil par rapport au beatmaker un peu classique.
Il est différent.
Bah ouais, complètement. Ouais, enfin, il est multi-instrumentiste et tout. Donc,
mais je pense que c'est une plus-value, ouais. Pardon, tu disais.
Ouais, bah non, mais quand on est ça au simple beatmaking, ça serait du gâchis, tu vois. Faut pas.
En fait, c'est à travers des spectres d'observation que tu peux élargir ton impact. Et donc, je pense qu'en te catégorisant, et là je vais faire une généralité, mais peut-être que je me trompe. En te catégorisant, tu limites ton...
Ouais, tu te fermes les portes, en fait.
Tu limites ton impact. Et si t'arrives et que tu dis « je suis beatmaker et je fais ça », bah...
C'est marrant parce que vous, enfin la limite que vous y voyez, moi, je le prends de l'autre côté presque. C'est-à-dire que c'est pas beatmaker, c'est limitant, c'est plutôt... beatmaker, c'est devenu compositeur... Et que en réalité, un beatmaker peut être multi-instrumentiste, etc. Enfin, je trouve que ça a vachement évolué.
Ouais.
En fait,
en France peut-être pas.
Ouais, c'est ça. Sur les, enfin,
à l'étranger peut-être.
Et même la façon dont les beatmakers sont même potentiellement perçus par les rappeurs. Tu vois, je pense que je suis pas sûr que les mecs que le rappeur qui choisit une instru, il ait conscience du taf qui a potentiellement été fait derrière. Et en fait. Il y a des mecs qui, mais depuis toujours, t'as des gars qui te font des beats au kilo, tu vois.
Mmh. Ah ouais, c'est un truc de fou.
Tu vois, il y a des gars.
À la grande époque des type beats, etc.
Ça continue. Ouais.
Ça continue.
C'est un truc de fou, les séminaires de faits par des maisons de disques où t'as 7-8 beatmakers qui, ils appellent ça séminaire, tu vois, c'est corporate limite. Chacun dans sa case, toi t'es beatmaker, tu fais 1 milliard d'instru en 5 secondes. Maintenant t'as même des petits qui font des instrus sans regarder leur.
Ouais.
Enfin, sans écouter, tu vois, avec des boucles splice, etc.
Il y a des gars qui speedrun Ableton, tu vois.
Ouais, ils speedrun. Alors, il y a.
FL, ça sera plus FL.
Il y a des speedruns de Fruity Loops sur Soulja
ouais.
Boy, pas mal.
Ouais.
Et là, récemment, il y a eu Playboy Carti aussi, où le gars, il a fait Playboy Carti en 4 secondes 27.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, on n'a pas précisé. Raconte juste, parce que là, on commence à comprendre, mais ça consiste en quoi exactement un speedrun?
Le speedrun, c'est quand tu... Alors, initialement, c'est un terme pour le jeu vidéo. C'est quand tu essaies de terminer un jeu de la manière la plus rapide possible.
De con, quoi, déjà.
En prenant donc déjà... Mais, big up à MV, parce que il anime Speedon. Désolé. Et c'est la famille. Mais ouais, en fait, c'est des gars qui vont terminer genre un RPG où toi, tu mettrais 37 heures et ils vont le finir en 22 minutes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ils vont skipper tout ce qui est skippable dans le jeu en tant que aspect ludique, c'est-à-dire je
n'est pas là pour prendre du plaisir.
Je speedrun les dialogues et tout, mais également ils sont à la limite du glitch, tu vois, de l'exploit qui fait que
Quand tu rentres dans ce niveau-là, en tournant tout de suite à gauche et en frôlant le troisième polygone de la montagne, tu vas te téléporter dans le donjon, ouais. Tu vois. Et en fait, c'est limite du bug et de l'exploit de bug.
Ce qu'on appelle de l'OOB, out of boundary.
Bah ouais, c'est ça. C'est ouais. En fait, il passe en mode dev, tu vois. Et c'est une pratique. Et moi, j'ai vu effectivement des speedrunners. Les gars, ils te speedrun Mario, mais c'est hallucinant. Les gars sont des mutants, tu vois. Et en fait, effectivement, je suis tombé il y a pas super longtemps sur du speedrun Doubleton. C'est-à-dire
mais
que
vraiment, ils utilisent ce terme speedrun. Mais je crois.
Ils te refont un morceau, genre ils vont te faire Usher, tu vois, genre
en 3 secondes.
Et le deal, c'est j'essaie de le faire le plus rapidement possible.
Ouais. Et le mec, il te le fait en 4 secondes 37, et t'es là, tu fais. Et alors, c'est des mecs qui ont 16-17 ans, tu vois.
Il y a un truc où ça reprend les codes du speedrun, dans le sens où, en fait, pour rentrer dans les détails, quand tu fais du speedrun, t'as un timer en haut à droite qui est utilisé avec un certain logiciel qui te permet de mesurer le temps que tu fais sur ton jeu, et notamment entre chaque checkpoint, etc., etc. Comme ça, tu vois si t'as moins 2 secondes, moins 1 seconde. Et en gros, les gars utilisent vraiment même cette esthétique, c'est-à-dire que t'as le compteur speedrun sur le Fruity Loop, c'est le mec quand il a fini, bim, et là c'est...
tu vois, le mec, il te fait un morceau en 4 secondes. Alors évidemment, ils ont préparé leur bibliothèque, leur machin.
Oui, tu vois, c'est-à-dire ils l'ont fait 3 milliards de fois, je sais gagner une seconde.
Ils doivent placer, tu vois, toutes les petites briques sur le dos, enfin sur le séquenceur, et...
ça va parfaitement avec le truc consumériste et la création de contenu, je pense. Après,
sur la création de contenu.
pour le speedrun en soi, pour juste passer vite fait sur les jeux vidéo. Par contre, je trouve que c'est un truc de, il y a un méta gameplay autour du speedrun qui est totalement incroyable.
Ah ouais.
Je vais pas trop ouvrir la parenthèse parce que je suis un énorme fan de jeux vidéo, et d'ailleurs ça on en a pas parlé, mais c'est une grosse influence pour moi musicalement, les jeux vidéo de manière générale. Et t'as tout un truc où...
Mais tu connais Speedon ou pas?
Speedon.
Eh ben c'est un événement dédié au speedrun.
D'accord.
Sur tous les jeux, donc...
En France?
Ouais.
Ah, okay. C'est à Lyon la prochaine,
parce qu'à cause des JO à Paris, c'est compliqué d'avoir une salle, tu vois.
Ouais, dans une bonne ville.
Mais l'année dernière, ils étaient...
le chauvinisme revient en force.
Non mais Lyon quoi. T'as pas vu la vidéo avec la touriste là qui a essayé de chercher du love à Lyon?
Oui mais le problème c'est pas Lyon, c'est elle.
Ouais bah ouais, bien sûr. Moi je pense que Lyon c'est une partie du problème. Et donc l'année dernière c'était au Palais des Congrès.
Ok.
Et notamment il y a eu du speedrun sur Elden Ring, tu vois.
Ouais.
Donc, les jeux From Software qui sont archi vénères, et franchement en fait tu vas là-bas. Tu te dis, ça va pas me parler, et t'es hypnotisé parce que vraiment c'est de la performance. Les gens sont, c'est des
Et puis c'est du travail, hein. Et puis t'as des vrais témoignages de rigueur et d'entêtement, quoi.
Ouais, bah ouais,
c'est-à-dire que t'as des gens qui ont mis genre, des fois, 6 ans à finir un niveau. Presque en mode question de vie ou de mort. T'as des vraies histoires, et t'as des youtubeurs aujourd'hui qui te racontent des histoires pendant 1h30. Où en gros il t'explique genre la fabuleuse histoire de ce speedrun de truc là, et moi ça me tient en haleine, j'adore.
En fait, ouais,
je suis gros client de speedrun en tout cas.
Ben voilà, il faut que tu aies un speedon. Pas incroyable. À Lyon du coup, parce que ça reste une
ville. Je regardais beaucoup les speedruns américains où ils font des levées de fonds justement pour des causes.
Ouais, bah c'est ça, c'est un événement caritatif en fait.
Ouais, ouais. Ça j'aimais beaucoup. Ouais.
C'est marrant parce que t'as dit que c'était une grosse rêve pour toi la musique de jeux vidéo.
Tu veux pas placer des prods en jeux vidéo du coup?
Ah, c'est vrai que c'est
moi ça c'est dans mes objectifs, c'est de collaborer à long terme dans le cinéma et dans le jeu vidéo. La musique d'habillage, l'ambiance, tu vois, créer l'ambiance. Et d'ailleurs c'est un truc que je regrette, je trouve que dans pas mal de jeux vidéo aujourd'hui l'ambiance elle est... On me vend un jeu vidéo indé avec genre une histoire de fou et tout, c'est incroyable, et t'arrives et la musique c'est... pas trop ma tasse de thé, voire même je trouve que...
Là, souvent c'est le dernier budget. Hein. C'est
non, vrai. Ça dépend, il y a un jeu que j'ai commencé à faire sur les recommandations, donc je connais pas cette personne, mais je vois sa chaîne YouTube, de Nostalgeek.
Ouais, ok.
Qui a fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Naissance. Et la BO est trop bien, je vous recommande d'aller checker ça. Moi, ça m'a mis une petite claque, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, en fait.
Ouais. Bon, en fait, soit c'est effectivement... Enfin, ça dépend du studio, mais soit t'as des mecs qui mettent la musique dès le départ, et limite qui construisent le jeu autour, soit t'as des gens qui ont une idée de gameplay, de design, qui veulent absolument mettre en place, et ensuite, la musique, c'est... À la fin, ils font bon, il nous reste combien? Allez, vas-y, c'est parti.
Je sais même pas si c'est tant une question de ça. J'ai l'impression que c'est une question aussi de direction artistique. Et...
Ouais, mais en fait, c'est la priorité qui est donnée aux différents aspects.
Ça peut jouer. Je sais plus si on avait parlé avec Rémi The Algorithm, qui fait de la musique de jeux vidéo, qu'on avait reçu dans ce podcast. Ouais, je crois qu'on avait parlé de ces éléments-là. Je pense aussi à l'épisode sur Total Tracks, tu sais, avec Rafik Djoumi. Ouais.
Non, parce que souvent, en fait,
il nous disait, t'es dans le cinéma, qu'il arrivait quand même souvent que le compositeur arrive quand même en fin de process.
Et
que la considération, en fait, pour bien travailler aussi, est pas toujours évidente.
T'as les deadlines, etc. Mais c'est pour ça que l'univers indépendant, je pense, peut être assez stimulant quelquefois, parce que justement, t'es dans un truc de qualité, quoi.
T'as un gars, par exemple, qui est signé pour, on lui demande, je sais pas moi, 48 minutes de musique, tu vois. Et puis, 3 semaines avant la deadline, on fait, finalement, c'est 72. Ok, je fais quoi? Enfin, tu vois,
ça, de façon, plus tu mets des personnes dans une boucle, plus tu vas avoir des complications à certains niveaux, et c'est valable en groupe de musique aussi. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu improvises, et quand t'es dans des contextes purement d'improvisation, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu multiplies le nombre de personnes, en fait, la cohésion de groupe est moins évidente à faire. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai réussi à créer des interactions de musiciens sur disque, peut-être plus efficaces des fois, ou à 2-3. 2-3-3-4, tu vois. Et je pense que dans les grandes structures, etc., dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Tu vois, là, il y a récemment, je regardais un reportage sur la création d'Half-Life. Okay. Les mecs, concrètement, c'est des gars qui viennent de Microsoft. Ils ont repris le moteur de ID Software, donc le moteur graphique. À l'époque de le Quake Engine.
Quake, ouais.
Et en gros, c'est un des jeux qui a été le plus retardé, quoi. Mais pour mettre la qualité en avant, et ça je le salue énormément, parce que c'est pas donné à tout le monde, et c'est ce qui va des fois tuer l'ambiance de certains jeux, où justement des fois quand t'as
Half-Life, le timer, pour le coup, c'est vraiment un jeu d'ambiance en plus.
Ah, puis des fois il y a eu des retards, c'était du 4-5 ans de retard quand même, tu vois. Et sachant que t'as des investisseurs qui t'attendent au tournant l'année d'après, tu vois.
Après, parce que tu disais que c'est un truc qui t'intéresse comme milieu. C'est aussi, je repense à cet épisode-là avec donc les animateurs du podcast Total Tracks, qui connaissent très bien la musique de film, et qui nous racontaient, alors eux, par exemple, d'un point de vue purement musical, c'est pas des grands fans d'Hans Zimmer, voire ils sont extrêmement critiques envers Hans Zimmer.
Ouais.
Par contre, ils analysent aussi sa réussite incroyable.
Oui, ils reconnaissent son succès.
Ils reconnaissent évidemment son succès, et ils lui reconnaissent une grande qualité, c'est son adaptabilité. D'avoir créé un écosystème avec des équipes, etc., mais lui aussi personnellement, énormément à l'écoute des attentes des studios, etc., de pouvoir tout de suite retoucher le truc si besoin, d'être disponible, machin, etc. Et que ça, en fait, c'est aussi une qualité professionnelle à adopter, tu vois, que tu peux faire valoir aussi.
Ça, c'est du business. Après, le gars, il se met dans un écosystème où c'est du business, quoi. Là, c'est...
Mais même au-delà du business, je pense, toi, à ta simple échelle, toi, si un jour t'as envie de travailler, tu sais, le côté, pas une souplesse en se faisant marcher dessus, tu sais, en faisant n'importe quoi, genre t'es une variable d'ajustement, on t'en demande trop par rapport à ce que t'es payé, etc. Ouais. Mais le côté, j'ai conscience que c'est un accompagnement, tu vois, avec des retours, des machins, etc., et que je peux me consacrer, notamment s'il y a le budget nécessaire, je peux me consacrer un moment à ce budget et dire, vas-y, tu vois, là, je priorise ça, je comprends, tu vois, par exemple.
Non, c'est intéressant. Moi, je t'avoue que ultimement, j'aimerais bien faire mes jeux vidéo aussi. C'est-à-dire que je commence à m'intéresser un peu à Unreal Engine 5 et tout. J'ai envie d'aller un peu dans ce domaine-là, parce que j'ai une sensibilité de joueur, quoi. J'aime vraiment ça. C'est un truc qui fait partie intégrante de ma vie. Je pense que je m'arrêterai jamais de jouer. En fait, je joue énormément à plein de jeux tout le temps, tu vois. Donc j'ai snipé un peu, je vais voir, on va voir ce que les années vont apporter à ça.
C'est plus une corde à l'arc là, c'est une guitare en fait.
Mais oui, ça lui correspond bien.
Mais parce que c'est
t'es un curieux.
Moi je suis très curieux en fait. Mais tu vois, Flylo, il s'est mis à Unreal Engine. Okay. Donc pour ceux qui connaissent pas, entre parenthèses, je remets une parenthèse, Unreal Engine, c'est donc un outil qui a été développé pour
un moteur de jeu
avec, si tu veux, c'est un peu le Photoshop des moteurs de jeu, où en gros tu peux avoir accès à de quoi faire un jeu de manière plus simple.
Okay.
Ou voire même
une interface utilisateur plus accessible.
Voilà, voire même dans le cinéma actuellement, ils utilisent ça. Donc je l'ai pas vu, mais je sais que dans The Mandalorian, t'as une technologie d'écran en fait tout autour des gens pour qu'ils soient filmés, pour les intégrer dans un décor directement à la place des fonds verts, parce qu'en fait le fond vert, ça fait ce qu'on appelle du leak, et en fait t'es en vert, et du coup ça joue sur le contraste et la direction photographique dans le cinéma, parce que t'es limité par le fond vert. Donc tu peux pas projeter de la lumière comme tu veux, etc. Eux, ils utilisent Unreal Engine pour faire les décors derrière, pour me faire moduler les décors.
Ils ont un écran de 23 mètres, un peu ce qu'on a à Gozulting.
Okay.
Un peu l'écran du Mandalorian. Ouais. Ils ont un écran de 23 mètres, en fait, ils utilisent ça pour projeter des décors. Et ils ont un rig qui fait que
quand la caméra se déplace pour suivre les personnages, bah, le décor, en fait,
il bouge aussi.
Il est avec ce
temps.
Moteur de jeu, et du coup, il bouge en même temps, ce qui fait que t'as vraiment.
Incroyable.
Ils rajoutent 2-3 assets.
Donc, ils enregistrent dans les conditions du réel, mais les décors sont sur des écrans qui,
sur
en temps réel, évoluent.
Exactement.
Sont
en LED. Ouais. Et ça coûte moins cher que le fond vert, je crois.
Ça coûte moins cher que le fond vert, et tu peux, enfin, c'est archi modulaire, et tu vois, ils rajoutent des petits assets physiques, genre des caisses, des machins, des trucs pour donner un petit peu. Et en fait, c'est bluffant. Tu regardes le Mandalorian, en fait, t'as pas du tout l'impression d'être devant un écran LED.
Ouais, c'est fou.
Ouais, c'est
comme on arrive à parler d'Unreal Engine, mais dans cette émission, mais tout un
jeu vidéo, jeu vidéo.
Oui, et puis c'est parce que c'est les invités qu'on aime, les curieux.
C'est vrai. C'est vrai.
On peut peut-être terminer, conclure ce podcast, parce que ça fait plus de 2 heures qu'on discute.
Ah ouais,
c'est très intéressant, ouais.
T'as vu, le temps passe. Hein.
Ouais, j'ai l'impression que j'ai rien dit encore.
Oh non, c'est terrible.
Un épisode 2.
Oh, oui, les survivants, si vous êtes encore là, on vous salue.
Non, j'ai une question quand même. Je voulais en faire une partie, mais ça peut être juste une simple question. Tu y réponds de la manière dont tu veux. On a vu qu'il y a les collaborations, il y a les morceaux que tu sors toi de ton côté, il y a les groupes, tu vas accompagner là aussi, bon, on peut pas encore dire les noms, mais des artistes relativement importants en live dans les prochains mois. Dans tout cet univers, tout ce panel professionnel, etc., qui doit aussi te permettre de bouffer d'ailleurs en faisant des trucs à droite, à gauche, etc. Je pense pas que, à la fois d'un point de vue résonance médiatique et fric, ça soit tes projets purs perso qui te ramènent le plus, j'imagine.
Yes.
Comment tu vis ça? Est-ce que justement c'est un objectif pour toi de plus t'imposer avec un nom d'artiste, des projets plus personnels? Est-ce que le côté soutien pour du live, faire proder pour des gens aussi ailleurs, etc., ça te convient parfaitement? Ça te va d'être dans l'ombre? C'est un choix? Comment ça se passe tout ça?
Moi, dans le futur, mon but, c'est d'être rentier avec mes droits bien grassement.
Ah, donc c'est quand même bien le but, ok, très bien.
Et donc de pouvoir m'acheter une petite maison à la Cambrousse, d'embêter personne, d'avoir mon petit studio quelque part là, marrante, ce qui me permet d'être en pantoufle et de me dire bon, là je peux souffler pendant 3 mois si je veux, je fais de la musique. Et j'adorerais que ma musique marche, mais c'est pas mon truc principal.
Moi, j'ai perso marche.
Ouais, j'ai envie qu'elle soit écoutée, ça c'est quelque chose, mais j'ai pas forcément envie qu'elle marche, je m'en fiche un peu.
Qu'elle ramène de l'argent par contre. Non, j'ai dit sur ton blague, mais ce que tu disais aussi, c'est
En tout cas, je sais que vas-y.
Non, vas-y.
Je vais capitaliser à l'avenir un peu plus sur ma musique personnelle. Ouais. C'est juste que j'ai un peu l'impression que toutes ces années, j'étais en apprentissage et je le suis encore. Tu vois, comment mixer, comment faire ci, comprendre le business, etc. Et en fait, moi, j'ai juste l'impression que là, les 15 dernières années, j'étais à l'école, tu vois. Ouais. Et là, je viens de sortir de l'université, je suis juste en mode, ok, je commence à capter un peu, j'évolue dans cet écosystème, tu vois.
Parce qu'on parle aussi un peu business, tu dis qu'aussi, il y a l'idée quand même, avec un projet personnel, de pouvoir t'assurer financièrement pour pouvoir te consacrer à d'autres projets artistiques, ouais, justement. C'est aussi parce que tu te dis c'est pas assez rémunérateur les collaborations, c'est-à-dire que comme évidemment c'est tout divisé, etc., avoir un tube qui marche bien en son nom et donc pouvoir récolter plus les fruits de ce travail, c'est un objectif. Ça suffit pas de je sais pas, tu vas te mettre de prodé pour Nekfeu, ça suffit pas d'un point de vue financier.
Non, c'est pas ça. Moi, c'est plus une question de développement personnel. Il y a un moment où j'ai besoin de faire mes trucs, en fait. C'est viscéral. Peu importe l'argent.
Il y a pas le côté ouais fric là-dedans.
Ouais, non. Moi, il y a un moment, faut que je sois chez moi et que je puisse faire mon truc. Sinon, je le vis mal. Donc, je vais mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir le faire. Et éventuellement, il y a un moment où je vais un peu plus capitaliser sur mon projet personnel. Et j'ai plein de potes qui m'incitent à ça, notamment Jimmy Woo qui me dit tout le temps, ah mais mec, pars pas en tournée, c'est toi qui fais ta tournée, tu peux faire tes thunes avec. Avec ça, mais je pense qu'il y a de la balance à trouver dans toutes les choses et il y a un temps pour tout, tu vois. Donc ouais, il y a un temps pour tout. Maintenant, moi, j'ai envie d'avoir le temps d'avoir le temps. Et c'est pour ça que je fais certaines choses, pour avoir le temps d'avoir le temps. Mais quand je collabore avec un artiste, avant tout, il faut que j'ai ce truc d'épanouissement. Sinon,
ouais, c'est pas une prestation commerciale, quoi.
Ouais, c'est ça. Et le peu de fois où ça m'est arrivé de faire un truc un peu à contre-cœur, mec, franchement, je me sens pas bien.
Ouais.
Et je vois des gens qui arrivent très bien à faire ça comme ils font des baguettes de pain, mais moi, j'y arrive pas du tout, en fait. Mmh. Et je pourrais jamais faire ça, tu vois.
Parce que tu vois, il n'y a pas de considération morale ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer aussi que le musicien peut être un artisan comme un autre. Un client arrive avec une demande, il satisfait à cette demande et voilà, tu vois, ça pourrait être aussi légitime. Enfin, tu vois.
Ouais, mais la musique, c'est fait avec le cœur et du coup, c'est dur de. En fait, je mets pas du tout les choses en opposition. Je trouve que t'as totalement raison. C'est juste. Vas-y, c'est. Il y a un petit côté un peu sacré à la musique quand même. Il y a un truc qui est. Au-delà, qui va au-delà du simple produit à consommer, et ça, je pense que c'est inhérent également à la place qu'a la musique dans notre société, tu vois. Moi, quand j'ai appris un peu de djembé avec un griot, quand j'étais à Boaké en Côte d'Ivoire, j'ai passé 2 mois à faire du djembé avec l'Océni, donc qui m'a appris plein de choses. Bah, j'ai capté que lui, la manière dont il exerçait la musique, c'était pas. Comment on dit ? C'est pas un loisir, tu vois. Le mec, il doit aller jouer au mariage. Il a un rôle particulier, il a une fonction sociale, il est là pour ça. Nous, vu qu'en fait, on arrive de nulle part là et qu'on fait de la musique, j'ai l'impression que des fois, il y a des questions qui ressortent où on en oublie presque qu'en fait, vas-y, on fait ça avec notre âme et que...
Ce serait quoi la fonction, alors pour toi, ta fonction à toi ici, dans le contexte français ?
Moi, je pense que la musique, elle peut résonner sur, de manière indirecte sur la capacité... cognitif des gens et donc la capacité à réfléchir, à se poser des questions, à ressentir certaines émotions. Et je pense qu'en tant que musicien, t'as un rôle très indirect mais finalement assez important dans la société sur le feeling, en fait, sur le questionnement, sur plein de choses, tu vois. T'as vu les artistes et le questionnement, quand t'es à contre-courant, t'es jamais... T'es contre un courant, mais du coup, tu peins ce courant aussi. Si moi, demain, je dis « j'ai envie de faire de l'ambiance, ça me saoule tous les trucs rythmés », je suis à l'encontre des trucs rythmés. Mais en fait, le fait que je sois à l'encontre, ça peint aussi le portrait de la société dans laquelle j'évolue. Si je veux faire un truc profondément punk, je le fais parce que, en fait, c'est par rapport à un truc qui est pas trop punk, tu vois. Et donc, je pense que nous, en tant qu'artistes, on a un pouvoir. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les griots, en tout cas mandingues, donc du peuple mandingue, c'est une catégorie qui est, comment on dit, il me semble... j'ai oublié comment on dit, mais en gros, c'est ils se marient entre eux, tu vois. Et il y a un truc où il me semble qu'à l'époque, au Mali, ils ne pouvaient pas parler de politique. Parce que le griot a un pouvoir sur les gens vis-à-vis de la musique et que il me semble. Hein, et s'il parle de politique, il va commencer à corrompre le cœur des gens.
Ah ouais, d'accord.
Tu vois, et nous on n'a pas trop cette approche ici parce que c'est pas, on vient pas de là culturellement, mais je crois vachement à ce truc-là où en fait tu peux influer beaucoup sur
les âmes.
Ouais, sur les âmes.
C'est l'une des, pas la seule, c'est compliqué, mais qu'est-ce que l'art, etc. C'est tellement compliqué, c'est une question philosophique. Mais c'est vrai que certaines personnes considèrent que ce que l'on peut réellement qualifier d'art, c'est lorsque ça remet en question, lorsque ça questionne la société, lorsque c'est en rupture, lorsque ça propose quelque chose qui n'a jamais été fait, ou avec une autre perspective, lorsque, voilà, il doit y avoir un truc quand même de, si ce n'est subversif, de un peu de choc, un peu de, ouais, tu vois, de.
Bah, t'es positionné, que tu le veuilles ou non. Si tu dis, moi, je suis dans mon coin.
Mais peu de gens peuvent prétendre à ça, quand même.
Comment ça ?
Bah, dans le sens où un artiste qui, à travers sa production, réellement va avoir un impact palpable sur son environnement, il n'y en a pas beaucoup, je pense, quand même.
Mais tu sais, des fois, c'est des exemples plus communs. Hein, sur des styles très.
Oui, c'est là que je vois le grand truc.
Et c'est pas forcément des choses qui vont être bien au final. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, il y a des influences qui partent. Tu vois, par exemple, Pop Smoke, t'as vu comment il a retourné le truc. Il a influencé plein de gens. Même dans le rap aujourd'hui en France, tu vois les modes, tu vois les petits sur TikTok et tout. Tu vois comment, en fait, ça perce. Même sur le langage, sur les paroles dans le rap, etc. Il y a des choses qui sont extrêmement puissantes, tu vois. Et c'est pas anodin, en fait. Et la musique, c'est pas qu'un produit, et les choses ont plus de percée que ce qu'on veut accorder aujourd'hui dans le business. Il y a un moment, je pense, faut pas oublier que, vas-y, c'est quand même un gros topic, c'est un truc qui est important, et on l'a vu pendant le Covid, tu vois. D'un coup, j'ai l'impression, moi, de ma perspective, je sais pas si je me trompe, d'un coup, on s'est réveillé, on s'est dit... Ah, oh, ça manque la culture, les musées, les concerts, ça manque. D'un coup, la vie devient fade, en fait, il y a un truc qui se passe plus. ça fait partie intégrante de notre vie, tu vois. Et aujourd'hui, c'est contextualisé différemment parce que les moyens d'écoute sont démocratisés, qu'on écoute sur téléphone, etc. Mais moi, je sais que les anciens des années 70, mes parents, etc., c'est quand ils avaient des vinyles, t'achètes la chaîne, écouter de la musique, c'était un vrai...
Oui, c'était démarche. C'était une démarche.
Et aujourd'hui, cette démarche existe encore, mais elle cohabite avec une autre démarche qui est
plus consumériste,
plus légère dans le sens où ça demande moins d'effort d'aller chercher la musique, tu vois, et c'est voire même c'est la musique qui vient plutôt aux auditeurs, quoi.
C'est ce que je dis. C'est ma position, c'est ce que je dis souvent. C'est moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des aspects plus consuméristes, à ce qu'il y ait des trucs easy listening, des trucs mainstream, hein, même un peu que je jugerais un peu dégueulasse. Ce qui est embêtant, c'est quand ça phagocyte tout le reste.
Dans quel sens,
en fait, ça prend tellement d'espace et ça prend aussi tellement toutes les ressources financières que le reste tend à disparaître petit à petit.
Ouais.
Et qu'on reste sur le stream, absolument.
Et c'est là, en fait, où les. Bah après, ça, c'est une réflexion très française, j'imagine, où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. C'est à eux aussi de préserver avec de l'argent public, etc. Ces espaces qui, sinon, se font bouffer par l'industrie, en fait.
Merci Jacques Toubon. C'est grâce à lui qu'on a Jul.
Bah, c'est bien qu'on ait Jul.
Oui. Oui, en plus.
Ah, c'est compliqué toutes ces histoires de la musique, en fait, en tant que, parce que ici, si tu veux, la musique, on la défend en tant que, comment on dit. Il y a certaines choses qui se passent, qui sont mises en œuvre pour que les choses se passent, et on essaie de créer quelque chose d'organique alors que la base l'est pas. Tu vois, je trouve ça un peu curieux, dans le sens où c'est comme
analysé, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Allez, danse, mets-toi debout, là, tu bouges un bras à gauche, tu bouges l'autre bras à droite, là, tu vas danser normalement. Que t'as des endroits où ça se passe.
Ouais.
Oui, mais en fait, le ne sort jamais de nulle part. C'est qu'en fait, il y a eu quand même, il y a un tissu, tu vois, un maillage social d'interaction, etc., ouais, qui crée ce truc favorable, selon toi, tu vois, à une expression plus organique de la musique.
Ouais.
Et en fait, ça ne serait pas artificiel que de dire, peut-être que, en enseignant, les choses à l'école, ou en ouvrant des lieux où on peut danser, machin, etc., qu'en fait, à force de le travailler, et ça va, en fait, avoir un impact important, et ça va être, de toute façon, réinterprété par les gens à leur manière, et ça va devenir un peu organique, entre guillemets.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je parlais des pouvoirs publics, ça, je pense qu'en fait c'est important aussi, tu vois. Il y a
des trucs à
faire vivre et en injectant de l'argent.
Institutionnaliser pour organiquement.
Parfois il y a besoin d'institutions, ouais, de structures, tu vois.
C'est beau.
Pour accueillir les gens et tout.
C'est un plaidoyer pour l'État providence.
À Paris, des fois c'est un peu complexe sur ce sujet-là. Juste là, il y a vraiment une question pour moi d'espace. Artiste, espace, compliqué. Tu vois, l'histoire du voisinage à Paris, c'est tout un c'est tout un topic un peu comme on dit, qui arrête un peu à la création des fois. Rien que pour louer à un endroit ou faire des choses et tout.
C'est compliqué déjà. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter sur cette belle discussion un peu plus politique, au sens noble du terme.
Yes.
Mais intéressante.
Il y a des recos ou il n'y a pas de recos?
Ah bon, on va finir avec des recos, évidemment, quand même. Non, toi, ça t'embête parce que t'avais pas de recos.
Si, c'est bon. Moi, je vais dans mon Spotify et boum, j'en ai. Hein.
C'est vrai, Mono, on t'a pas dit avant l'émission. Tu sais, c'est une des traditions dans DLT.
La petite reco.
Si on termine avec une reco, un truc que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs.
Actuel,
un
ancien.
On peut commencer si tu veux pour te laisser le temps de réfléchir.
Vas-y, carrément.
Ouais.
J'ai même pas mon téléphone, ça sera de tête.
Il faut que tu te checkes, vas-y.
Ouais.
Ah oui, tu veux de tête. Vas-y, Daz, qu'est-ce que t'as envie d'écouter? Qu'est-ce que t'as envie de faire découvrir?
Alors. C'est marrant.
Ah ouais, attends, je vais chercher mon phone. attends, j'arrive.
J'étais parti sur du OJ's et je viens de me rappeler que non, on va aller sur. Faut que t'ailles sur YouTube, par contre, parce que c'est pas sur Spotify.
Ça sera pas sur Spotify.
C'est un mec qui s'appelle Flesh and Bone.
Ok.
Flesh, c'est le cinquième Bone Thugs and Harmony.
Flesh and Bone, comme ça.
Flesh N. Avec un
L. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai.
Et oui. Et le morceau s'appelle North Coast.
Ok.
Il est sorti sur son album en 96.
Ok.
Et c'est pas sur Spotify. Et je le trouve chambé le morceau. Donc,
Eh ben écoute, Flesh and Bone, North Coast.
North Coast.
On s'écoute ça. Oh, c'est Dazesque ça.
Ah bah oui. Donc c'est le grand frère de Lazy Bone, qui est un des membres de Bone Thugs les plus connus. On va jusqu'au refrain, hein. Ça fait plaisir. Flesh and Bone, qui a fait 18 ans pour... Je crois qu'il avait arrêté avec une Kalachnikov et de la dynamite en disant qu'il voulait fêter le 4 juillet.
Arrêtez les gars, je te jure.
Ah, c'est Bone Thugs, hein. Il y avait Thugs dans le nom, c'était pas volé, hein, franchement.
C'est pas des lol.
C'est pas des lol.
Je dirais un pote, hein, moi.
Est-ce que t'as trouvé ce que tu voulais écouter, moi?
Ouais, alors c'est pas ce que j'écoute en ce moment, mais j'avais envie de sortir ça. C'est Dreaming de John Hassell.
Alors, Dreaming, John Hassell.
Qui est mort il y a pas si longtemps que ça et qui a fait ça quand il avait peut-être 80 balais, respect.
Très bien. C'est bah écoute, on l'écoute tout simplement et on va le découvrir avec toi. Parce que je vois que c'est sur un album qui s'appelle Listening to Pictures.
Yes.
Et effectivement, il y a un côté très, très BO, quoi. Très,
ouais.
On prend le temps et on installe un truc.
Yes. Quoi, et en même temps, il pourrait y avoir un mec qui rappe derrière.
Ça, c'est vrai aussi.
Moi, c'est ça que je kiffe.
C'est vrai. C'est vrai.
Tu sais, des fois, j'ai envie de faire des trucs genre Drake, mais sans Drake. Et sans batterie, sans rien. Et juste le pad qu'il y a derrière. Non mais très chaud, John Hassell, voilà, il a fait un album avec Brian Eno à l'époque, très 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 fort, et moi j'adore, j'écoutais ça à Toronto dans les rues, un peu dystopique.
Tu devais être bien, tu devais être bien.
J'adore.
Et bon, alors toi, je termine, ouais, avec, c'est un groupe anglais de rock qui vient je crois de la scène punk plutôt hardcore, si je dis pas de bêtises. Et qui en fait, je suis passé complètement à côté pendant des années parce que là c'est sur leur dernier album qui date de 2022, mais il y a eu un album précédent qui est une tuerie absolue en fait.
Mais comment s'appelle le groupe ?
Ça s'appelle Hyvis.
Voilà.
Okay. Et Hyvis, c'est un mélange marrant parce que si tu prends indépendamment chaque sonorité, c'est pas si original, mais déjà il y a l'énergie d'un groupe jeune, tu vois, qui fait du rock cool. Et on est à mi-chemin entre, il y a des aspects punk, il y a des aspects Britpop, tu vois, il y a des moments t'as l'impression d'entendre Oasis, et ils mélangent un peu toutes ces influences comme ça, et je trouve ça ultra stylé.
L'album s'appelle
Blending, mais le précédent est trop trop bien aussi, et là le morceau c'est 0151, je sais pas comment dire, 0151, un truc comme ça.
0151.
Hyvis. On s'écoute ça.
donne envie de jouer à FIFA. La musique des écrans d'accueil, ça.
Voilà, tu trouves que ça fait la musique de FIFA, c'est ça tu
Ouais, dis dans les FIFA, mais à l'ancienne.
Mais ça, c'était Casabian. C'est parce que c'était Casabian à l'époque dans la musique des FIFA.
Ah ouais.
Il y avait ce genre de reverb un peu garage et tout. Moi, ça me fait penser plutôt à Dead Kennedys.
Ah ouais, tu penses au Dead Kennedys.
Ouais, ouais, au début là.
Ouais. Dans garage, en fait, il y a vraiment, tu sais, ce, je trouve là ce contraste dans ce morceau en particulier entre le refrain ultra mélodique, beaucoup plus ouais, pop ouais.
Et le truc un peu.
La plainte punk, tu vois.
Ah, ça me ferait kiffer d'avoir un projet comme ça. Je sais que c'est
vrai.
Ouais, un truc un peu.
Je rentre dedans. Moi, je rêve que de les voir en live maintenant, depuis que j'ai découvert.
Ouais,
ils ont aussi plein d'influences, un peu Cold Wave, etc. Ou parfois, t'as l'impression d'écouter les Cure aussi, ou les Smiths même, tu vois. Ils ont des riffs un peu à la Johnny Marr et tout. Franchement, groupe cool. Ça réinvente pas la roue, mais c'est bien fait.
Ah, c'est bien de pas réinventer, on s'en fout.
Ouais.
Faut pas réinventer. Faites le même truc que vous faites depuis 40 000 ans. Si le truc est bon.
Exactement. Vous êtes des Anglais, vous savez faire. Allez-y.
Moi, c'est un truc que je dis des fois aussi. Mais enfin, bref.
Bon, Mono, merci beaucoup d'avoir participé.
Merci à vous.
C'était un bon moment. C'était quoi,
ouais. Un très bon moment.
Merci Daz.
Merci Salman. Merci Iris et Sam.
Évidemment.
Qui sont en régie depuis 8h30.
Absolument, les pauvres, ils doivent nous détester.
Ouais,
en plus,
désolé,
là,
ouais.
Ça va être chaud pour les métros. Je sais pas s'il y en a qui sont à métro, mais ça va être chaud.
Non, mais moi, ça va ubériser, là, je pense.
Oui, je pense aussi. Ouais. Ça, on peut traîner.
Désolé, les frères. Ouais. La prochaine fois, ce sera un podcast de 6h.
Un merci aussi, évidemment, à François qui monte cet épisode.
Merci. Merci
et puis, un grand merci à Thoman, notre sponsor. T'achètes parfois chez Thoman?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais. C'est bon.
J'aurais même pas besoin de dire ça. Tu vois, oui. Tout le monde achète chez Thoman.
Bah oui, les deck savers et tout. Forcément.
Voilà.
Plein
et
de
voilà.
Choses, des petites machines à droite à gauche.
Tous les musiciens achètent chez Thoman. Ça vous, il faut acheter.
The place
oui,
to buy.
Oui, c'est Thoman qui nous paye. Alors,
the place to be, the place to buy.
Non, mais pour de vrai, c'est pas pour saucer machin et tout, mais c'est cool de faire une émission comme celle-là quand même.
Ouais.
Tu vois, où ça parle de musique. On peut même parler de trucs un peu geekos et tout.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est un peu tout, mais il y a pas beaucoup d'espace comme ça.
Il y en a aucun.
Bah, je pense aussi.
J'espère que j'aurais pas perdu trop de monde, mais je crois qu'on a essayé de généraliser un peu à certains moments.
On a essayé de. C'est un truc que je me suis dit, j'ai parfois un peu perdu de vue ces derniers épisodes d'Az. C'est de reprendre un peu mais tu vois, le côté un peu pédagogique de temps en temps, tu vois, pas partir sur les acquis tout le monde maîtrise et tout, tu vois, c'est genre,
ouais.
Vas-y, oui, quelques bases, on les rappelle.
Mais alors, attends, c'est quoi un VST?
Ouais.
Franchement, j'y pensais à un moment donné.
Mais
parfois, il faut. Et pas que sur les trucs de geekos, tu vois, et un peu.
Mais on pourrait faire aussi une émission lexique.
Une émission lexique.
Où tu dis, alors voilà, on va faire une émission, on ne parle que des termes qu'on a abordés dans d'autres épisodes et on vous explique ce que c'est.
Ça peut être chiant et intéressant en même temps.
Eh oui, intéressant.
Et bien peut-être dans 15 jours.
Des concepts.
Peut-être. Vous avez le droit à un épisode intéressant. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 15 jours.
Bah oui.